Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le vrai Tchouaméni, je pense qu'il a sa place en tant que titulaire au Real Madrid. Et je suis sûr, je ne suis pas sûr.
What, the best league in the world? Come on, the Premier League. Every single day.
Trois sélections, il vient du Diable Vauvert, hop, trois sélections, il met deux buts. Pourquoi tu ne lui donnes pas sa chance? Ça te donne une possibilité supplémentaire.
Et Nico Paz, il a vraiment fumé comme une cigarette après avoir fait l'amour, si je peux me permettre.
Génération After.
Nicolas Jamin.
Et bonsoir à toutes et à tous, et bonjour à toi qui nous écoute en podcast, Génération After, spécial Drôle de Dame, la seule émission à la radio qui parle pendant deux heures de football étranger. Et pour l'Angleterre ce soir, une drôle de dame qui nous a vendu Daniel Craig, Jude Law et Sean Connery. Pour l'instant sa PL c'est plus Mr Bean et Benny Hill. Bonsoir Julien Laurence. Ouais garçon, on est déçus, hein, on s'ennuie hein.
Là, on joue contre les quatre. On a quatre clubs anglais contre quatre clubs espagnols.
Ok.
On fait 100%.
On fera un bilan lundi prochain. Il y a aucun problème. Pour l'instant, elle n'est pas à l'auteur de ses revenus. Pour l'Espagne, un jeune Padawan visionnaire qui nous a dit la semaine dernière attention, Villarreal sera grand. L'Atlético petit. Victoire 2-0 des Colchoneros ce week-end face à Villarreal. Bonsoir Edgar Grollo.
C'est pas beau ce que tu fais, Nico. C'est pas beau. Bonsoir à tous.
Parle-lui de Bordeaux un peu. Parle-lui de Bordeaux.
Mais ça sert à rien Bordeaux. Tu passes sur une ambulance là. Bref, Edgar en direct de Madrid devant le stade Santiago Bernabéu. Pour l'Italie, une drôle dame qui est avec nous depuis un mois et qui a vécu son orgasme de la saison avec Juve Inter. Merci, au revoir, à la saison prochaine, Daniele Manucci, à bonsoir.
Merci, j'aime ça, c'est vrai, ça suffit.
Ah oui, t'aimes les orgasmes, football, bien sûr. Et pour l'Allemagne, une drôle dame qui a aussi vécu son match fou, hein, Wolfsburg-Cologne, mais lui sait qu'il en aura chaque week-end. Vive la boulie, bonsoir Polo.
Bonsoir Nicolas, bonsoir tout le monde.
En direct de Paris, en studio Polo, ce soir, les trois points des drôles dames, 15 secondes chacune. Commence avec toi, Polo, justement.
Y a un petit débat en Allemagne pour savoir si le Bayern Munich est un outsider en Ligue des Champions, ouais. Évidemment, par rapport à ce qui s'est passé un petit peu l'année dernière.
Ça fait déjà réagir sur les réseaux.
J'ai vu ça, mais en tout cas, c'est un débat important. La deuxième chose, évidemment, on va aller du côté de Francfort, parce qu'ils ont un calendrier assez démentiel, la liste de courses. Et donc, on n'a pas droit à l'erreur, donc on va discuter un petit peu de ça. Et puis, tu as parlé de Wolfsburg, la minute sera consacrée
incroyable.
À Wolfsburg-Cologne.
Écoutez bien, si vous n'avez pas vu ce match, une résumé, le scénario complètement dingue de ce duel. Daniele, 15 secondes.
Oui, on va parler de l'orgasme de Inter-Juventus d'ailleurs.
Avec ou sans la cigarette? C'est comment? C'est pendant ou après?
Il y a 7 cigarettes quand même à fumer, donc on a vite fait mal à respirer après ce match. Et après on va parler de Modric avec Milan, on va parler des frères Thuram, bien sûr qu'ils ont fait polémique, et de l'Atalanta qui va voir Paris pour la première fois de sa vie.
Edgar.
Alors, on a un Real Madrid Olympique de Marseille demain. Donc, évidemment, on va faire le point sur ce Real Madrid de Xabi Alonso. On va peut-être donner des indices aux Marseillais sur les points faibles desquels ils pourront profiter peut-être demain soir. On fera aussi un point sur le Barça avant le début de cette Ligue des Champions. On se posera cette question. Qui est le plus important pour Hansi Flick, Pedri ou Lamine Yamal? Et pendant la minute, on ira du côté de Getafe. On parlera de l'entraîneur José Bordalas. Lui, vous lui donnez 11 bouts de bois et il arrive à vous maintenir en ligne.
Ils apprécieront les 11 bouts de bois. Julien.
On a eu le derby de Manchester hier entre United et City United. Ça s'est mal passé pour United et Ruben Amorim est sous pression énormément avant le match du week-end prochain contre Chelsea. On parlera d'Aston Villa, ça ne va pas bien du tout. Pas de victoire et surtout pas de but marqué encore pour l'instant cette saison. Et puis on aura une minute très sympa, un peu carnet rose mais très sympa quand même.
Ah, le retour du carnet rose de Julien Laurence. Tiens, personne ne nous dit sur le chat de la chaîne YouTube, j'en ai gros sur la patate, si ça parle de Manchester United ce soir, évidemment qu'on va en parler. Julien vient de le dire avec notamment une sortie de Roy Keane, Julien, qu'on écoutera, qui doit faire beaucoup parler chez toi en Angleterre. Alors, l'after à 22h prend le relais jusqu'à minuit comme tous les soirs. Bonsoir Gilbert.
Salut les gars, on va parler Ligue des Champions, les clubs français bien sûr, qui à partir de demain seront sur RMC. L'OM va rentrer en lice en premier face au Real demain soir. On saura tout avant le match bien sûr. Florent Germain est avec Edgar Grollo à Madrid. Plus les infos parisiennes, monégasques. Et puis après 23h, Jean-Louis Tour a des idées pour améliorer l'arbitrage. On verra s'il est convaincant. On va également revenir sur la sortie de Liam Rosenior qui est en colère. Il a défendu Emega. Il ne comprend pas la réaction de certains supporters strasbourgeois. On y reviendra également tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore au programme? J'ai un autre truc que j'ai oublié.
Mais c'est pas grave. C'est déjà dense là. Hein. Ce sera à 22h.
Non, c'est important.
C'est important. La Ligue?
Ah bah oui. Merci.
Peut-être. Ouais.
Le conseil d'administration de la Ligue ce soir, qui était apparemment assez chaud. On vous raconte tout tout à l'heure, puisqu'on a des infos.
Ah.
Eh oui.
La révolution est en marche. Pas vraiment.
Peut-être pas.
Peut-être pas en fait. Tout à l'heure, Gilbert.
Ce soir, tout à l'heure.
L'after à 22h, c'est parti pour Génération After. 32-16 pour nous appeler, n'hésitez pas à poser vos questions à Julien, Polo, Edgar et Daniele. Numéro WhatsApp également, vous connaissez, 0612 424 424. Et puis je vous rappelle qu'on est également en direct vidéo sur la chaîne YouTube de l'After. Alors c'est parti, commençons avec toi Edgar, ce mardi soir 21h, le Real reçoit l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'OM va affronter un grand Real, oui non Edgar?
En tout cas, ils vont affronter un bon Real Madrid, parce qu'on pouvait difficilement imaginer mieux pour un début de Liga avec un nouvel entraîneur. Ils ont fait le point, ils ont remporté un match très compliqué, toujours très compliqué sur la pelouse de la Real Sociedad ce week-end, 2-1, avec un très grand Kylian Mbappé, faut le dire. Il l'a répété il y a quelques jours, l'OM est l'une de ses proies favorites en carrière. Il a bien envie de leur jouer un mauvais tour, et ça tombe à pic pour le Real, parce que on a vu un Kylian Mbappé très très bien en jambes, qui sert bien ses coéquipiers, qui termine bien ses propres actions, qui est très vif, très rapide, et surtout on sent une équipe de Xabi Alonso qui continue progressivement, petit à petit, de prendre ses marques, d'avoir de plus en plus de certitude, d'avoir des individualités qui décidément semaine après semaine se dégagent. Je pense à Arda Güler, je pense à Aurélien Tchouaméni, Alvaro Carreras aussi, la recrue qui fait un très très bon boulot sur le côté gauche de la défense. En tout cas, l'OM va retrouver un bon Real Madrid demain, mais c'est toujours un Real Madrid forcément en construction.
Il va falloir laisser combien de temps encore à Xabi Alonso? Certes, il est arrivé au début de l'été, Coupe du Monde des clubs, 4 journées en Liga, pour qu'on voit vraiment ce qu'il sait, ce qu'il a pu déployer au Bayer Leverkusen. Est-ce qu'il y a un peu d'impatience sur la forme, en tout cas sur le jeu proposé par le Real, ou pas du tout pour l'instant?
Non, il n'y a pas d'impatience, parce que on voit vraiment une progression constante. Ce que nous disaient les joueurs quand on était à la Coupe du Monde des clubs, ils nous disaient, c'est pas en 4 jours qu'on va changer les habitudes forcément qu'on avait avec un autre coach, Carlo Ancelotti, qui avait une autre mentalité, une autre façon de jouer, d'autres indications qu'il donnait aux joueurs. Et donc petit à petit, on voit les mécanismes qui commencent à se mettre en place. On voit les joueurs qui essayent d'aller récupérer le ballon dès la perte de balle, même si voilà, c'est toujours une équipe en construction, comme je disais. Et donc tu vas avoir toujours des oublis, tu vas avoir des joueurs qui ne se connaissent pas encore parfaitement, notamment en défense. Et je pense que c'est un point sur lequel l'OM pourra s'appuyer, c'est que cette équipe du Real Madrid, tous les joueurs ne se connaissent pas parfaitement, et donc tu as des erreurs. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être un point faible dans cette défense du Real Madrid, c'est la profondeur dans le dos des défenseurs centraux. On l'a encore vu avec Dino Hissène ce week-end, qui fait une faute qui lui vaut un carton rouge assez sévère, mais qui fait penser déjà à un carton rouge qui s'était pris lors de la Coupe du Monde des clubs face à Dortmund. Asensio s'était aussi pris un carton rouge en étant pris dans le dos lors de cette même Coupe du Monde. Et on a l'impression en tout cas que c'est peut-être un point faible, cette profondeur de la défense, là où l'année dernière c'était plutôt l'espace entre les latéraux et les défenseurs centraux qui posait très très souvent problème. Voilà, il n'y a pas de frustration autour de cette équipe de Xabi Alonso, parce que pour l'instant ils prennent les points, parce qu'il y a des choses quand même intéressantes. Il manque encore, je pense, une victoire vraiment marquante, large, face à un adversaire où il n'aurait douté à aucun moment. C'est ce qui manque encore à cette équipe pour vraiment se dire, voilà,
gars, est-ce qu'on considère que Marseille demain soir c'est un premier test ou pas du tout? Comment traite la presse espagnole, les médias espagnols l'avenue de l'OM?
Alors déjà, faut séparer les supporters du Real et la presse, parce que la presse évidemment prend quand même l'OM au sérieux, parce que quand on regarde de l'OM, il y a quand même des joueurs de qualité, des joueurs que les journalistes espagnols connaissent évidemment. Je pense à Aubameyang, je pense à Greenwood, ce sont des noms qui leur parlent évidemment. Benjamin Pavard, Aguirre qui n'est pas là, mais en tout cas il y a un effectif qui leur parle, hein. C'est pas comme aller jouer certains petits poussets de cette Ligue des Champions. Ils savent que ce n'est pas a priori l'un des matchs les plus faciles possibles dans cette Ligue des Champions, même si c'est un match évidemment abordable pour le Real Madrid. C'est un bon test, et c'est une façon parfaite, c'est plutôt comme ça qu'il le voit, c'est une façon parfaite pour Xabi Alonso de commencer son aventure en Ligue des Champions avec le Real Madrid à domicile, face à une équipe qui a à la fois du prestige historique, parce que même en Espagne ici on reconnaît quand même que l'Olympique de Marseille a une histoire, et d'ailleurs les supporters auxquels on parle généralement, ils pensent à l'histoire de l'OM l'OM plutôt qu'au joueur actuel. Ils connaissent pas forcément très très bien l'effectif, mais ils savent que l'OM c'est une équipe sérieuse historiquement. Et donc battre cette équipe là pour commencer la saison, s'ils arrivent à avoir une victoire assez nette ou au moins maîtrisée, je pense que là ce serait vraiment un très bon message envoyé par Xabi Alonso et son équipe.
Daniel, tu avais une question à poser à Edgar.
Oui, je voulais demander justement si la forme d'Mbappé, c'était pas aussi un peu un problème pour Madrid, c'est-à-dire s'ils sont pas un peu dépendants de Mbappé quand c'est lui qui arrive à sortir, à donner la fin à l'action, c'est bien, mais quand lui il est pas en très très forme ou il trouve pas la solution, ils ont du mal dans les jeux collectifs. Vous aussi le fait que Vinicius depuis quelques temps c'est un peu fantomatique, on va dire.
Oui, je pense que t'as raison sur un point, c'est que je pense que la forme actuelle de Kylian Mbappé embellit notre vision des premiers pas de Xabi Alonso au Real Madrid, parce que c'est sûr que notamment tu regardes le dernier match face à la Real Sociedad, c'est lui qui fait les différences, c'est lui qui prend de vitesse les défenseurs, c'est lui-même qui fait une passe décisive pour Arda Güler sur une très très belle action. Donc effectivement, je pense que les résultats du Real Madrid avec un Kylian Mbappé un petit peu moins brillant, ne serait-ce que le Kylian Mbappé de la saison dernière, on aurait peut-être pas forcément la même image, mais comme je disais, t'as quand même des individualités qui ressortent comme Güler, comme Chouaméni. Je pense que maintenant, au fil des semaines, on va voir des joueurs soit vraiment saisir ce que veut Xabi Alonso et se mettre en valeur et devenir des titulaires indiscutables et vraiment porter l'équipe, soit peut-être que d'autres joueurs vont moins prendre, ne vont pas forcément bien intégrer les consignes de Xabi Alonso. Et j'ai l'impression que c'est un coach qui est vraiment en train de tester plein de choses différentes. La composition change assez drastiquement d'un match à l'autre, avec des joueurs qui paraissaient en fin de banc et qui le lendemain vont se retrouver titulaires. Je pense à Rodrigo, je pense à Ceballos. Xabi, il est encore en train de tester tout le monde, et effectivement je pense que les performances de Kylian Mbappé nous donnent une meilleure image peut-être du Real Madrid que son véritable. Mais le truc c'est que demain Kylian Mbappé il sera là et il va être plus motivé que jamais. Ouais, face à l'OM, il va avoir envie exactement, il va avoir envie de faire le match statement, on va dire, comme dirait Julien, pour vraiment marquer le début de sa saison aux yeux du monde, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un match de Ligue des Champions à Bernabéu pour faire ça. Ouais.
Bon, il installe aussi Arda Güler en numéro 10, on en reparlera, on va suivre l'évolution de l'international turc dans ce positionnement. Tiens, avant de parler de Luka Modric dans un instant et du Milan avec toi Daniele, Polo, l'actualité c'est aussi un nouveau coach débarqué en Bundesliga, le coach du Borussia Mönchengladbach, on l'a appris il y a 2 heures à peu près.
Ouais, le Suisse Seoane qui est excellent en conférence de presse, peut-être un peu moins sur un terrain. Seoane donc évidemment, prestation dramatique hier dans la dernière rencontre à domicile contre Brême, 4-0, ils ont pas existé, c'est tendu depuis le début de la saison et je serais pas surpris si on continue comme ça qu'à la fin de la saison, et ben justement, ouais, le Borussia Mönchengladbach et ben soit un candidat à la relégation, et il y a plusieurs clubs comme ça, 4-5. Donc il est remplacé par Polanski qui est un ancien joueur bien connu notamment de Mayence, et bon, on va voir ce que ça va, mais ils doivent absolument se relever, mais ça courait déjà depuis hier soir.
Ça fait déjà deux coachs limogés en 3 journées en Bundesliga après Erik ten Hag au Bayer Leverkusen. Alors Daniele, le Milan qui, je le rappelle, ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison, a donc battu Bologne 1-0 grâce à un gars de 40 ans, il s'appelle Luka Modric, hein, puisqu'on parlait du Real. Quelle conclusion faut-il en tirer, Luka Modric, déjà sa prestation face à Bologne et depuis le début de la saison en Serie A, comment tu le trouves?
Ben, très bien, c'est déjà les joueurs les plus importants de Milan, c'est lui qui commence l'action et que, comme sur le but, la termine aussi. Et il faut dire que c'est les 6e joueurs les plus anciens avec plus de 40 ans à marquer en Serie A. Ben, le plus ancien de tous c'était Ibrahimovic qui avait marqué à 41 ans passés. Mais c'était un match assez médiocre, il faut dire, dans lequel Bologne n'a pas cadré les moindres tirs et a presque complètement disparu sur le terrain de la deuxième période. Mais ça montre, je pense, aussi une autre chose, le fait que Modric soit si important et que il joue si bien en Italie. C'est-à-dire le fait que paradoxalement, dans un championnat surtout physique, ce sont les joueurs capables de contrôler les rythmes et la direction de jeu balle au pied qui peuvent en réalité avoir un impact plus durable. Il y a eu une étude sortie récemment selon les CS Football Observatory, selon lesquels la Serie A est le championnat le plus grand du monde, avec une taille moyenne de plus qu'1,84 m. Et c'est plus haut que le championnat norvégien et l'allemand, même si la moyenne du pays, l'Italie, elle n'est pas la plus grande, même juste en considération de l'Europe du Sud. On est parmi les plus petits. Cagliari, c'est les clubs les plus grands du monde. Et l'Atalanta, c'est les troisièmes. Et il n'y avait même pas dans les classements parce qu'il manquait les données. L'Udinese, qui, je pense, est la plus grande en moyenne.
Mais quelle conclusion ils en tirent après? C'est bien beau une étude. Une fois qu'on dit que c'est 1m84 la taille moyenne.
On fait l'âge.
Oui, c'est un championnat de.
C'est l'âge.
On choisit.
C'est pas la centimètre, Daniel. C'est l'âge, non? Les joueurs.
Oui, parce que c'est un peu le championnat EHPAD dans la Serie A. Hein. On avait avec l'Inter, hein, où tu survoles avec des mecs de 38 ans.
Mais dans un championnat très physique, où les poisons, c'est justement la puissance physique, l'antidote, c'est la technique. C'est ça, ce que je voulais dire. C'est qu'après, on peut dire que
Modric s'en tire comme ça aussi, tu veux dire. C'est ça.
Bah oui, voilà. C'est-à-dire, sur le plan physique, toutes les équipes là, elles se contrastent. Il y a toujours des matchs assez bloqués, des duels, où il y a des joueurs grands, puissants, qui par contre ils n'ont pas beaucoup de contrôle. Quand il y a un joueur qui a un contrôle comme Modric, ben, ça fait toute la différence du monde.
On est sûr que ce n'est pas parce qu'ils sont grands et lents en Serie A que ça joue beaucoup moins vite qu'ailleurs?
Non, ils ne sont pas très lents. Hein. Quand même, il y a une bonne intensité de plus en plus. Après, on ne prend pas beaucoup de risques, donc il y a beaucoup de blocs bas et on a tendance à ne pas donner beaucoup d'espace en profondeur. Mais après, l'intensité au milieu de terrain surtout, là où joue Modric, il y en a, mais après on peut voir la différence entre un joueur comme Modric qui contrôle la balle, il s'y retourne, il va où il veut, et des joueurs qui ont du mal déjà à contrôler la balle quand ils ont entouré un ou deux joueurs.
Edgar, on regarde encore ce que fait Modric ou pas justement, parce que là il enchaîne les matchs avec le Milan, ce qui n'était vraiment pas le cas avec le Real saison dernière.
Oui, on regarde beaucoup. Alors après, faut quand même garder en tête que l'année dernière, c'était le deuxième joueur du Real Madrid qui avait joué le plus de matchs. Alors, il est évidemment en termes de minutes, il était bien en dessous que d'autres joueurs parce que généralement c'était en tant que remplaçant. Mais c'est quand même un joueur qui a fait toute la saison sans se blesser, qui répondait toujours présent et surtout un joueur où on avait la sensation que quand il était sur le terrain, l'équipe globalement était meilleure. Et je pense qu'il y a même certains supporters du Real qui le regrettent un peu. S'il n'y avait pas l'éclosion d'Arda Güler, ils auraient envie d'avoir ce profil créatif, mais Daniele, je pense que Modric, même à son âge, ça reste aujourd'hui sur la planète football l'un des joueurs quand t'as besoin de débloquer un match sur une passe, quand t'as besoin de trouver un centre face à un bloc bas qui peut te sortir d'une situation compliquée. Donc à Madrid, il y a toujours cette fascination évidemment pour Modric. Les gens suivent ses prestations à Milan et les médias. Parce que j'ai presque envie de dire qu'ils sont pas surpris, parce qu'ils l'ont vu briller jusqu'à quasiment cet âge-là au Real.
Mais c'est intéressant parce que à l'instant là, Polo mettait en avant l'âge moyen peut-être pour s'intéresser à ça en Serie A, alors que tous les autres championnats font du jeunisme et veulent absolument recruter des mecs de 19, 18, 20, 21, 22 ans, prime à la jeunesse pour des raisons de trading aussi plus tard. En Italie, on a l'impression que c'est pas forcément un choix d'ailleurs, c'est plus subi qu'autre chose. Oui. On mise sur les anciens, Daniel.
Je pense que ça coûte plus cher la jeunesse.
C'est ça.
Mais c'est aussi une question de culture. On a pas de confiance dans les jeunes. Ça, on le dit depuis longtemps. C'est pas un pays pour jeunes. Et là, ça fait beaucoup d'années qu'on dit ça. Il y a des équipes qui prennent des risques, comme par exemple Parme. Ils ont pris les risques même sur les bancs. Cuesta, il a même pas 30 ans, il vient de faire 30 ans. Et c'est leur entraîneur, l'Espagnol en plus. Donc voilà, c'est vraiment contre-culturel. Mais normalement, ça va plutôt dans la direction des Allegri, des Sarri, des Gasperini, c'est-à-dire des gens experts. Et sur les terrains, c'est la même chose. C'est des joueurs experts qui assurent la prestation, même s'ils n'assurent pas les quelque chose en plus que Modric, bien sûr, il a toujours parce que c'est un phénomène. Mais pour un Modric qui a de l'expérience et de la créativité et de la génialité, il y a 10, 15 joueurs qui ont juste l'expérience en Serie A.
Bon, sinon, Rabiot a fait une bonne première ou pas? Qui voulait parler là?
Non, j'allais juste dire que ça aide aussi quand t'as Fofana et Rabiot de chaque côté.
Qui font le taf à côté, autour de toi.
Quand t'as pas le ballon.
Mais en même temps, c'est ça que c'est drôle, parce que Modric, il fait beaucoup de travail défensif aussi au Milan.
Oui, mais c'est pas le même impact physique, Daniel, que les deux autres. C'est ça que je veux dire.
Non, mais il y a
courir,
pas raison,
parce courir, que... Courir, il peut courir. Mais dans les duels et tout ça, et c'est moins fort que Fofana et Rabiot.
Non, mais par exemple, hier, il a intercepté beaucoup de passes au milieu de terrain avec sa capacité de lire le jeu. Lorsque Rabiot, Fofana, ils vont dans les duels. Et en Italie, sur ça, on devient de mieux en mieux à jouer contre les duels, contre les marquages individuels. Donc, ça aussi, ça fait un peu la différence. Quelqu'un qui est habitué à lire les jeux. Rabiot, il a bien joué. Il a eu tout de suite un impact. Il a été mis sur le côté gauche dans 4-4-2, vraiment années 90. On dirait que voilà, Allegri plutôt que la veste qu'il a enlevée, il s'est fait expulser à la fin du match. Mais au-dessous de la veste, il doit avoir un t-shirt de Nirvana pour vraiment, parce que son foot, c'est vraiment un foot des années 90.
4-4-2. Un foot grunge.
Bah, c'est un foot ouais, vintage, je dirais, avec des trous partout et qu'il faut passer à la machine. Mais c'est assez drôle, mais ça marche. En Italie, ça marche. Après, il n'a pas fait un match pétillant. Il faut dire que Bologne aussi, c'est une équipe très physique. Donc, ça a marché aussi parce que Bologne, il n'avait pas beaucoup de choses à répondre. Mais Milan, il aurait pu mettre plus de buts. Jiménez, il a raté... deux buts incroyables, les deuxièmes franchement incompréhensibles parce qu'il essaye de dribbler les gardiens quand les gardiens il est à 5 mètres et donc il finit presque en dehors du terrain. Mais voilà, on dit en Italie qu'il est pas tranquille, il a un problème mental, donc tout le San Siro l'a applaudi, l'a traité un peu comme un chouchou parce qu'il est en difficulté. Mais à part ça, Milan il a largement dominé les matchs.
Rabiot, comment tu juges sa première là?
Rabiot, ouais. il était bien parce que on dirait qu'il est chez lui. Il a eu un impact physique, bien sûr, mais aussi technique. À la 58e minute, j'ai encore le souvenir frais dans la tête. Il part sur le côté gauche, balle au pied, il passe entre deux joueurs et tout San Siro, il était début, ils étaient enthousiastes parce que la technique de Rabiot, que je suis d'accord, c'est pas un joueur très technique, mais sa technique avec sa puissance physique en Italie fait la différence. Et en plus, un joueur voilà, aussi sympa, je veux dire. Je sais pas, les Italiens, ils l'aiment. Il a quelque chose que les Italiens ont tendance à aimer. Après, Allegri l'adore. Dès qu'il a vu dans les vestiaires, il a appelé des vagabonds. Il a dit, oh, vagabond, toi où? Et le deuxième, l'attaché de Allegri, pendant tout le match, il appelait monsieur. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'un peu drôle dans le match.
C'est un peu
il a bien joué une coucou aussi.
Une quinzaine de minutes de coucou, c'est ça, ouais.
Oui, mais lui, par contre, il a montré une sensibilité sur les ballons techniques et une rapidité différente. En fait, il a pris un penalty qu'après les VAR, il a enlevé. On n'a pas toujours compris pourquoi. Mais en gros, il a pris deux fautes dans la même action. Il a pris une faute. Il est tombé. Il s'est relevé, il a repris la balle, tout ça entouré des quatre joueurs. Il a vraiment une rapidité différente. Après, ça, c'est les joueurs que moi, je préfère. Mais c'est vrai qu'en Italie, les joueurs comme Rabiot, ils ont longue vie. On va voir pour un concours.
Fait pour jouer en série, peut-être Adrien Rabiot. Allez, c'est l'heure de la première minute de la soirée. Elle est allemande. On envoie la musique, Polo.
Mein Götten, Centro, Mades. Je crois que c'est de l'électro-gothique, ça s'appelle comme ça maintenant.
C'est vieux ou pas, ou c'est récent?
Non, c'est assez récent. Et ça marche très bien. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de DS? C'était ce week-end, les 80 ans du club de Wolfsburg, créé en 1945. Et on a eu le droit à un scénario complètement fou, puisque on a eu plusieurs arrêts de jeu. DS Météo, qui à la 24e minute, un orage diluvien, on est forcé de faire rentrer les joueurs. Début de seconde mi-temps, DS bombe artisanale, évidemment, pour les 80 ans. Donc on s'est retrouvé évidemment à nouveau avec beaucoup de minutes d'arrêt. Et puis DS technologique, la VAR évidemment, bloqué pendant 10 minutes sans rien comprendre avec les images qu'on voyait. Et puis DS Bundesliga, puisque on avait 2-1 pour Wolfsburg lors des arrêts de jeu, 14 minutes d'arrêt de jeu, 3 buts durant les arrêts de jeu, dont un coup franc extraordinaire du capitaine Arnold, et Cologne le promu qui égalise au bout de 14 à l'ultime minute à la 104e, 3-3, match extraordinaire pour un anniversaire et une fête quasi parfaite.
Incroyable, 3 partout, 3 buts dans le temps additionnel, c'est aussi ça la Bundesliga bien sûr. Petit virage musical Polo, ou c'est à force de fouiller le répertoire allemand?
Non, mais j'ai pensé à Rammstein et j'ai bien aimé celle-là. Et surtout j'aime beaucoup le clip, par contre je ne vais pas traduire les paroles.
Ah bon, faut pas?
Bah, on a des jeunes qui écoutent quand même.
D'accord, ok. Ouais. Allez, on fait une pause. On revient dans un instant sur RMC avec les drôles de dames à venir à Aston Villa. Donnay Emery va-t-il vivre une saison en enfer et le FC Bayern n'est-il plus qu'un outsider en Bundesliga? Pour nous appeler au 32-16, bien sûr. Vous écoutez RMC, les drôles de dames sont là.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Edgar Grelot, Daniele Manoussia, Julien Laurence et Paulo Breitner. On est ensemble jusqu'à 22h. N'hésitez pas à faire le 32-16. Posez vos questions aux quatre drôles de dames du lundi soir. Dans un instant, le FC Bayern doit-il être considéré comme un favori ou un outsider de la Ligue des Champions? On en parle avec Paulo. D'abord, parlons d'un quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions, Julien. Aston Villa, début de saison catastrophique, 19e de Première Ligue, aucune victoire, mais une stat encore plus inquiétante.
Ouais, encore plus inquiétante. Alors, je l'ai même affiné par rapport à ce que j'avais envoyé ce matin. C'est que Aston Villa est le seul club en Angleterre parmi les 8 premières divisions, donc plus les 7 que je vous avais dit ce matin, et les 8 premières divisions, donc 427 clubs en Angleterre qui font partie de ces 8 premières divisions, donc de la première ligue jusqu'à la 8e division, forcément. C'est le seul club à ne pas avoir inscrit un seul but cette saison. 4 matchs de première ligue, 0 victoire, tu l'as dit, 2 matchs nuls, 2 matchs nuls où ils étaient d'ailleurs sous pression, ils n'auraient même pas dû avoir un point, et 0 but marqué lors de ces 4 journées de championnat. Quand tu as quand même des joueurs comme Watkins ou Rodgers ou Tielemans ou Sancho qui vient d'arriver en prêt et que tu n'arrives même pas à marquer, et c'est même pas que tu ne marques pas, c'est que tu te crées pas non plus de grosses occasions dans ces rencontres là c'est des matchs avec des expected goals de 0,3 par exemple comme à Everton le week-end dernier. C'est très inquiétant de la part de Villa et d'Unai Emery. Alors, la saison dernière, par exemple, ils ont eu une période à un moment où ça allait pas non plus. Ils ont perdu, je crois, ils ont gagné qu'un match sur 10 à un moment en championnat. Mais de démarrer de cette façon-là, c'est assez catastrophique quand même. Ils ont eu un été compliqué parce que ils ont des problèmes financiers. Ils ont beaucoup, beaucoup trop dépensé par le passé. Et que
c'est-à-dire quoi? Ils ont une dette à éponger. Quel est l'état des finances de cette Villa, là, aujourd'hui?
Oui, c'est ça. Alors, une dette à éponger, pas forcément, mais avec le fair play financier anglais, donc le fameux PSR. Tu peux pas non plus te permettre de dépenser n'importe comment. Ils l'ont fait beaucoup. Ça leur a permis d'aller en Ligue des Champions. Le problème, c'est qu'avec ce modèle-là, il faut que tu sois tous les ans en Ligue des Champions. Et que tous les ans, cette manne financière de la Ligue des Champions te revienne. Et dans ce cas-là, tu équilibres tes comptes. Et là, il n'y a pas de problème. Le problème, par exemple, pour Aston Villa, pardon, c'est qu'ils ont un ratio de salaire, par rapport comparé aux revenus du club de 96%. Donc, quasiment tout ce qu'ils gagnent comme argent, ça part dans le salaire des joueurs. Donc ça, déjà, à la base, c'est impossible. Tu peux pas fonctionner comme ça, Edgar le connaît bien.
96% de leurs revenus vont dans la masse salariale.
Exactement. Donc c'est un peu ce que le Barça a vécu, finalement. Ouais. Edgar le sait bien. C'est ce qui a... Alors oui, c'était encore pire que ça, mais voilà, on en est là aujourd'hui. Donc il fallait que Villa fasse des économies cet été. Tu pouvais pas non plus recruter des joueurs comme tu le souhaitais. Donc ils ont essayé de faire Paqueta, par exemple, lors du dernier jour du marché de transfert, mais ça pouvait être qu'un prêt avec une obligation de le recruter l'été prochain, mais il pouvait pas faire un transfert sec maintenant parce qu'il avait pas l'argent. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et si en plus sur le terrain ça va pas bien, alors là c'est que en plus des finances sur le terrain ça va pas, c'est pas bon pour l'avenir.
Lindelof est arrivé, Harvey Elliott, c'est Liverpool.
En prêt.
Jadon Sancho.
En prêt.
Marco Bizot de Brest. Voilà. Et Evan Guessant, c'est la seule friandise, hein, 35 millions d'euros.
C'est ça.
Voilà, on avait Evan Guessant.
Qui a été compensé par des ventes, mais ouais, c'est tout ce qu'ils ont pu faire.
Mon Dieu. Je sais pas comment faut le lire, mais en tout cas, ça rend la première ligue peut-être plus humaine d'un coup d'un seul, là. Quand on voit que quand on dépense énormément, on peut aussi se cracher, quoi.
Bah, il y a deux, je vais pas taper sur Julien et sur la première ligue, mais il y a quand même deux questions qui se posent. La première, c'est que font les autorités? Parce que ça arrive pas comme ça, 96%. C'est pas du jour au lendemain.
En Ligue 1, il y a une limite, je crois. Massa doit composer 112%, je crois, de tes revenus. Là, on est à 96%. Quand même.
Et pour info, pour nos auditeurs, pour l'avoir étudié, pour qu'un club de football soit à l'équilibre, il faut à peu près une masse salariale de 60%. Ouais. C'est à peu près ça. Donc on est à peu près. Alors évidemment, il peut y avoir des propriétaires qui mettent de l'argent au pot et tout ça. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est même pas le fait. Moi, je suis triste un peu pour le club, qui est pas n'importe quel club, mais c'est surtout comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là avant que les autorités interviennent. Moi, je n'arrive pas à le comprendre. Ça.
Oui, pour assurer la sauvegarde du club à terme, la pérennité, une stabilité. Et aujourd'hui, voilà. Bon, on n'est pas encore parti sur. Bon, on va voir, hein, Julien. Hein. Je sais pas comment on traite Aston Villa en Angleterre. Si on imagine que aujourd'hui les Villans sont un candidat à la relégation, on n'en est pas encore là après 4 journées. Il y a aussi une Ligue Europa à jouer. Mais pourtant, il y a une stabilité de l'effectif malgré tout. Tu vois, t'as l'équipe qui a amené ce club-là en quart de finale la saison dernière.
Oui, c'est pour ça que ça devrait repartir. Et puis Unai Emery n'est pas vraiment sous pression. Et puis même s'il était sous pression, juste pour rappeler avant qu'on en termine sur Aston Villa, c'est qu'il a quand même ramené tout son village au club. Hein. Donc c'est-à-dire que tout son staff, tous les gens au-dessus dans les bureaux, c'est à lui. Donc si tu veux le virer lui, il faudra virer tout le monde. Je crois en tout, ils sont, je crois qu'il a un staff élargi à 16. Ils sont 16 déjà. Ils sont tous espagnols. C'est tous à lui quasiment. À part un ou deux qui sont là, mais même Austin McPhew par exemple, qui est son adjoint qui est en charge des coups de pied arrêtés, là, qui fait du très bon travail d'ailleurs. Mais sinon, c'est vraiment, ils sont tous espagnols. Monchi est là, bien sûr. Damien Villagani est là aussi, qui est le grand patron du club. Enfin voilà, ils sont partout, donc c'est compliqué aussi. Mais à un moment, il t'a tellement apporté que c'est normal que tu lui renvoies la confiance. En acceptant ce qu'il te demande en tant que donc aller recruter telle personne, agrandir son staff, tout ce qu'on veut. Le jour où ça marche plus trop, ben on va voir comment ça va faire. Mais c'est vrai, t'as pas le feu, ça fait que 4 journées simplement. C'est pas non plus la fin du monde. Mais c'est vrai que c'est un début de saison qu'on n'avait pas vu venir de cette façon-là pour Aston Villa. Et c'est un peu inquiétant. Ils vont à Brentford, par exemple, demain en Coupe de la Ligue. Bon, la Coupe de la Ligue, c'est le dernier de leurs soucis. Mais après, ils vont aller à Sunderland. Ils jouent Bologne en Europa League la semaine prochaine pour le début de l'Europa League. C'est pas facile non plus. Il y aura Feyenoord ensuite. Ils ont même pas été, en plus, ils ont été plutôt, pas servis par un bon tirage non plus. Donc, c'est vrai que c'est pour l'instant un début de saison, assez cauchemardesque.
Ouais, t'as raison. Bologne, semaine prochaine, pour débuter la campagne de Ligue Europa. Vous avez un monument en péril, là, au championnat ou pas, actuellement, là? Daniele, en Italie. Oui. Qui, lequel?
Mais, si tu veux, il y a la Sampdoria que, oui. Elle a été temporairement reléguée en Serie C l'année dernière, c'est-à-dire en troisième division. Et elle a été repêchée pour les playoffs, qu'après elle a gagné contre la Salernitana. Mais bon, cette année, j'ai regardé les matchs. Ils sont encore dernières. Ils ont perdu tous les trois matchs qu'ils ont joués. Donc, et la Sampdoria, je rappelle pour qui la connaissent pas beaucoup, mais en 92, elle a fait la finale des Ligues des Champions quand même.
Eh oui. C'est notre génération, avec une légion de joueurs français, notamment dans les années 90, sous le milieu de la Samp. Polo, chez toi en Allemagne, s'il fallait en sortir un monument en grande difficulté.
Alors, on en parle rarement, et j'ai rarement dû en parler depuis 2009, mais l'actuel dernier de deuxième division, c'est le FC Nuremberg.
Ah oui. Ils sont derniers, tu vois.
Ouais, ils sont derniers, c'est Miroslav Klose, le coach, c'est compliqué. Alors, évidemment, pour les jeunes générations, Nuremberg, et même pour les anciennes d'ailleurs, ça veut pas dire grand chose, mais on dit toujours en Allemagne que les titres vont en Bavière et le cœur du football allemand est dans la Rouen. Et ce qu'on oublie, c'est qu'avant le Bayern Munich, le grand club qui raflait tout, c'était Nuremberg. Et jusqu'au dernier titre en Bundesliga daté de 68. Et en fait, ils ont énormément. Donc c'est pareil, stade de 50 000 places, etc. Et on oublie un petit peu, bah là, en ce moment, il est en dernière division. Je pourrais parler de Schalke aussi, mais bon, ça va un peu mieux, même s'il y a une grosse restructuration financière. Mais en tout cas, si Nuremberg va en descendre, par contre, en troisième division, comme c'est une région, une ville, qui est beaucoup moins riche que la Bavière version munichoise, j'ai peur que ce soit compliqué.
Nuremberg. Chez toi, Edgar?
Oui, bah je pense tout de suite au FC Séville notamment, qui était sur le toit de l'Europe ou en tout cas de la C3 il y a quelques années et qui souffre beaucoup. Les supporters au début de saison étaient très très inquiets, se disaient, avaient un petit peu peur que leur club joue un petit peu trop avec le feu. Ils ont des problèmes financiers et après je pense aussi forcément à Valence hein, qui là aussi a beaucoup souffert, s'est fait peur ces dernières saisons et là aussi t'as des difficultés financières. De toute façon, ces clubs historiques, pour se retrouver dans ces situations-là, c'est souvent avec des difficultés financières. Mais c'est vraiment deux monuments du foot espagnol qui ne sont vraiment pas au mieux de leur forme, alors qu'il y a seulement quelques années, surtout Séville, mais si on remonte un petit peu plus loin, Valence aussi, ils étaient toujours dans les meilleures équipes du championnat.
Bon, voilà, l'heure de la deuxième minute musicale de la soirée avant de parler du FC Bayern qui va lancer sa saison en Ligue des Champions contre Chelsea mercredi soir. Les italiennes, on envoie la musique, Polo.
Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone. Perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità.
E bon, passa. Par contre, ça c'est très beau, oui, c'est, ouais, une de mes c'est une de mes chansons préférées. C'est
voilà.
Un artiste. Non, ça, Rino Gaetano, il faut quand même pas rigoler.
Rino Gaetano.
Oui, lui, il est né à Crotone, mais il est mort à Rome. Il est mort sur la même route que j'ai fait toute ma jeunesse pour aller à l'école. Donc j'ai lu penser en gros tous les jours. Et ça, c'est une chanson que j'adore, un peu tristouné, mais pas trop, parce qu'il a toujours cette gaieté dans sa voix, et il a cette vitalité qui fait de lui vraiment un mythe en Italie.
Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson?
Elle raconte mon frère est fils unique. Et je l'ai choisi parce que il y a eu des polémiques après les bouts de 4-3 de la Juventus, parce qu'une caméra a capté Marcus Thuram qui parlait avec son frère Kefren, avec la moitié du visage caché par son maillot, mais ses yeux, ils souriaient. Et il y avait déjà eu une polémique quand Kefren, en tribune, avait fait les gestes du hockey avec son gros pouce, avec vers Marcus. Et après les buts qu'il avait marqués contre Torino. Donc voilà, un match lambda. Et déjà là, ils n'ont pas aimé les supporters de Juventus. Et là, c'est les supporters de l'Inter qui aiment. Pas le fait que ces deux frères-là, ils s'aiment. Et ils parlent de manque de professionnalisme. Ouais, oui, il faut respecter les supporters. Il y a eu des reconstructions. Ils ont dit parce que Marcus Thuram, il est en train de dire à Kefren de dire qu'il avait fait une faute pendant que l'arbitre révisait les buts de Hadzic qui a décidé les matchs. Et voilà, même Kefren, il a dû défendre son frère. Kivu a dû intervenir publiquement. On dirait qu'en Italie, être frère dans le même terrain, adversaire, c'est un problème. Parce qu'en Italie, on se déteste furieusement entre parents et voisins par tradition culturelle.
Culturel. Pour du foot, par exemple, il a dit Marcus qu'il avait simplement dit bravo à son petit frère d'avoir marqué un but avec la Juve. Ben, bon, que vous en pensez quoi, les gars? Parce que là, on est typiquement dans les relations fraternelles qui visiblement passent en dessous en Italie des rivalités de clubs, quoi. Quelqu'un veut réagir ou pas? Julien, t'as déjà été confronté à ça, toi, ouais, en première ligue
oui,
ou pas?
Oui, mais c'est marrant. Enfin, chacun est différent, chaque famille est différente. Mais nous, quand on avait par exemple Gary Neville et Phil Neville qui s'affrontaient avec Manchester United et Everton, dans le tunnel par exemple, ils étaient tous les deux capitaines, dans le tunnel il n'y avait pas un regard, pas un mot, rien du tout quoi. C'était vraiment deux étrangers, ils se connaissaient pas, ils voulaient pas se parler, c'était jamais tu les aurais vus faire un petit câlin, un petit bisou, un petit peu ce qu'on a vu, pas de cette façon là, mais entre les deux Thuram ce week-end. Donc je trouve ça assez intéressant, et moi j'adore la famille Thuram, donc après ça me dérange pas du tout, mais je peux comprendre que pour certains ça passe très mal.
Est-ce que vous comprenez Polo, toi? Tu comprends pas ce genre de réaction de supporter? C'est un peu primaire, certes.
L'Italie, surtout.
Mais voilà, la question, c'est est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est propre à l'Italie, surtout?
C'est-à-dire, quand j'ai vu les images de la rencontre, je vois tout de suite, et je me suis dit, tiens, Daniele va nous parler de ça, parce que évidemment, en Italie, t'as l'impression qu'il y a 15 caméras sur chaque joueur, donc ça arrive évidemment. Moi, je me rappelle les frères Rummenigge, il y en a un qui était à Dortmund, l'autre au Bayern, etc. C'est pas non, à ce niveau-là, il y a pas de haine à ce niveau-là, et surtout, je comprends qu'il faut respecter. C'est vrai. Bon, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une caméra, ouais. En fait. Et en fait, c'est pas Finos, en fait. C'est pas le fait qu'il y ait une caméra. C'est que Marcus.
Ils peuvent le faire dans le vestiaire, hein,
voilà, dans le vestiaire, tout ça, c'est comme ça. Bon.
Bon, et puis c'était le derby d'Italie. Ouais. Et puis le scénario est tel que forcément, ouais, les supporters de l'équipe perdante le vivent encore plus mal. Bon, il y a un effet grossissant. Oui,
oui, Daniele. Mais si je peux me permettre, vas-y. Je pense aussi que c'est l'envie de trouver un
coupable.
Oui, voilà. Parce que même après les buts de Marcus Thuram, lui, il a pas fêté, apparemment parce qu'il a marqué avec la tête. Il était en polémique avec un journaliste de l'équipe. D'ailleurs, peut-être vous en savez plus que moi. Et donc déjà là, ils ont dit pas. Alors, il est pas vraiment content. Son père, c'était un joueur de la Juventus. Donc alors, ça veut dire que lui, il est plutôt de la Juventus. Il y a toujours l'envie d'aller chercher l'impureté, pas la perfection et la haine à côté, vraiment le plus à côté possible, même dans les mêmes vestiaires. Marcus Thuram, il faut le dire, c'était le meilleur de l'Inter avec Çalhanoğlu qui a mis un doublé, mais c'était le meilleur. Il s'est battu pour tout le match. C'était Lautaro qui a été sorti, lui il est resté sur le terrain tout le match parce que justement il était présent. Il a vraiment bien joué. Donc voilà, après moi je pense que c'est une belle histoire, le fait qu'il y a deux frères assez haut niveau là
qui marque chacun un but important, voilà, dans ce match-là.
À 7 minutes, de distance l'un de l'autre.
Et de la tête, tous les deux.
Très important.
Bon, tu nous en parleras encore, hein, de ce duel, hein, ce derby d'Italie entre la Juve et l'Inter tout à l'heure. Dans un instant, le Bayern, qui approche de sa première journée en Ligue des Champions, qui lance sa campagne européenne. On en parle avec Polo. Je vous rappelle que le 32-16 est ouvert. Hein. Les questions à poser dans la deuxième heure au Drôle de Dame, n'hésitez pas à le faire. Restez avec nous, vous écoutez RMC 20h43, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin. Avec les quatre drôles de dames ce soir, Julien Laurence, Polo Breitner, Edgar Grolot et Daniele Manuccia, avant de parler du FC Bayern, la Ligue 2 en France. Guingamp face à Montpellier sous les yeux de Xavier Grimaud. Bonsoir Xavier.
Salut Nicolas, salut à tous. C'est parti depuis 4 minutes à Roudourou pour le dernier match de cette 5e journée de Ligue 2. Match de mal classé, hein. Montpellier seulement 11e, Guingamp 16e. Une victoire seulement pour les deux équipes et notamment pour Montpellier qui doit se mettre au niveau de la Ligue 2 après la saison cordesque de la saison dernière. Pour l'instant toujours 0-0 ici au Roudourou entre Guingamp et la Paillade.
Alors attention, débat qui a déjà fait beaucoup réagir sur nos réseaux, sur le compte Twitter, le compte X de l'After. Le FC Bayern n'est-il plus qu'un outsider en Ligue des Champions? C'est pourtant la question qu'on se pose et qui anime des débats chez toi en Allemagne, Polo. On a du mal à comprendre aujourd'hui.
C'est surtout lié à la saison dernière. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un mercato extraordinaire. Et c'est vrai que c'est surprenant parce qu'en 5 rencontres, c'est quand même 19 buts marqués par le Bayern. Oui. Ils ont écrasé. C'était marrant ce week-end parce qu'ils ont écrasé évidemment Hambourg, ce qui était un grand classique d'ailleurs au passage des dernières,
pour 5-0.
Dernières rencontres. Et tout le monde s'est focalisé sur la faiblesse d'Hambourg, mais très peu de personnes ont parlé de la prestation du Bayern. Il y a quand même 4-0 au bout d'une demi-heure, donc les gens sont focalisés sur le manque d'envie et l'effectif assez moyen d'Hambourg. On a quand même des bonnes nouvelles. Déjà, Luis Diaz, on ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Ça fonctionne. Il y a un joueur qui n'a plus de pépins physiques, Gnabry, qui te marque, qui te met une praline pour le 1-0, qui te fait une prestation qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, en tout cas, tellement il avait été gêné par ses problèmes physiques. Et le problème, c'est que c'est Chelsea qui arrive. Donc c'est un gros morceau. Et on reste sur ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire le Bayern sorti en quart de finale. Oui, il y avait des absents, mais la défaite contre l'Inter n'a pas été acceptée. On a fait comprendre à Vincent Kompany qu'il n'y avait pas de plan B dans ce qu'il faisait tactiquement. C'est-à-dire que, en gros, dès qu'on pouvait prendre la défense sérieusement par derrière, hop, ça faisait but. Et ça, c'était pas logique. Et si tu veux, on est un peu là-dessus. Et puis, on en a parlé déjà dans l'after, c'est quand même le mercato. Pas spécialement celui du Bayern, celui du football allemand. Et le Bayern, eh ben, il vit un petit peu l'après Voltemad. Je peux pas me payer Voltemad, qui a fait rigoler d'ailleurs aux Lyonnaises parce qu'il dit le montant, c'est pas compliqué. Il y a Isaac qui part pour 150. Eux, ils ont de l'argent. Hop, il prend 90, c'est réglé, quoi. Donc, si tu veux, j'ai trouvé cette façon de instructive de critiquer le Bayern et de se dire mais finalement est-ce que ce déclassement ne va pas arriver, qui est encore une fois une thématique importante depuis le début de la saison. Et je trouve que par rapport à ce que produit le Bayern, en tout cas en Bundesliga depuis le début de la saison, c'est quand même un peu abusé.
Mais
la dernière rencontre à
mais c'est notre saison, tout ça, Polo. Ils sont bien sympas, tes amis allemands, mais
oui.
Mais là, Olysée a grandi.
Oui.
Tu le dis.
Il est excellent.
Ils sont délestés de Leroy Sané.
C'est
Coman qui était son courant alternatif.
Ouais.
Luis Diaz s'est intégré. Harry Kane est meilleur buteur de la Bundesliga, encore une fois, l'homme est régulier.
Oui.
En novembre, tu as un retour de Jamal Musiala, Alphonso Davies aussi. C'est soit de la fausse humilité, soit de l'extrême sévérité avec cet effectif-là.
Le problème,
tu parles de la défense, éventuellement, on peut débattre de la défense du Bayern.
Le problème, par exemple, d'être déclassé, ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont en quart de finale. Pour eux, ils sont considérés comme déclassés. Or, c'est peut-être par rapport aujourd'hui au football européen. Alors, évidemment, parce que, en fait, blague qui circulait en début de saison, comme d'habitude, le Bayern va remporter la Bundesliga. Ce que je pense même qu'ils vont se balader, parce qu'en plus, ils ont un calendrier favorable. Ils ont un calendrier très favorable, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer les plus gros clubs à domicile à l'aller, donc normalement, ils vont s'amuser. Et puis, on sait très bien qu'ils vont peut-être se qualifier pour le top 8, c'est pas évident. Et puis, on va avoir les gros clubs étrangers en quart de finale ou en huitième, ça va devenir compliqué. Vont rentrer à la maison. C'est ça ce qu'ils se disent dans la presse allemande. Maintenant, encore une fois, mais c'est aussi une ambiance. Bad Stuber, ancien joueur du Bayern, disait « Mais je ne comprends pas ce que fait le Bayern pour le moment. » C'est-à-dire qu'on a un sentiment qu'il n'y a pas de véritable ligne directrice. Il y a eu cette fameuse polémique le week-end dernier entre Lyonnais, évidemment, président d'honneur du Bayern Munich, qui l'ouvre tout le temps, et son directeur sportif, Max Eberl. On parle de dégradierung, c'est-à-dire qu'on a dégradé Max Eberl, qui est quand même directeur sportif et responsable de la politique sportive du club, pour avoir fait le fameux transfert de Jackson et notamment la prime à la signature. Enfin, pas la prime à la signature, quand tu le gardes un an.
La prolongation de contrat.
Le prêt avec option d'achat de plus de 13 millions d'euros, qui a fait beaucoup de polémiques en Allemagne, où Lyonnais a dit il a donné en plus, le week-end dernier, ce qui se passe, ce qu'il y avait dans le contrat du joueur. Et il dit, 13,5 millions pour une pour un prêt, c'est pas donné. Mais de toute façon, on doit dépenser en gros 80 millions en tout. S'il joue 40 joueurs, vous, il dit ça à l'antenne.
S'il joue 40 matchs.
Il dit très clairement que il va faire 39 matchs. Il ne fera jamais le 40e.
Il dit ne restera pas. C'est fou.
T'imagines le directeur sportif s'il prend la tronche. Donc après, il a essayé de se rattraper et ceci et cela. Mais c'est vrai que depuis quelques années, moi, je pensais que la restructuration aurait dû avoir lieu en 2023. Elle n'est pas encore faite, elle n'est pas encore finalisée. Mais ce qui est sûr, c'est que la masse salariale, elle a baissé, que Max Eberl a dû faire avec. Peut-être n'a-t-il pas fait des transferts assez rapidement aux yeux d'Oulionès. Mais sur le terrain, ce que propose pour le moment le Bayern Munich, ok. Mais je pense qu'on va en parler s'il y a une contre-performance contre Chelsea.
Bon, Julien, comment aborde Chelsea ce rendez-vous ? Chelsea n'est pas non plus un début de saison canon en Première Ligue. Julien Laurent, c'est-il là ?
Ouais, vous m'entendez ?
Ouais, on est là. Ouais. Je parle de Chelsea, non. Justement.
Ouais, c'est un début de saison intéressant parce qu'il y a eu la Coupe du Monde des clubs et un petit peu comme ce qu'on voit avec le PSG, ils ont connu quelques pépins physiques, ils ont perdu Colwill pour toute la saison, ils ont perdu Palmer, ils ont perdu Delap, même si Palmer est revenu ce week-end là. Ça connaît pas la Ligue des Champions. C'est Maresca, il va la découvrir. Oui, ils ont gagné la conférence la saison dernière, mais c'est pas la même chose. Ils avaient une équipe B pour cette compétition-là, une équipe A pour le championnat. Donc ça va vraiment être intéressant de voir ça. Moi, je pense qu'ils vont utiliser une tactique similaire de celle qu'ils ont utilisée contre le PSG en finale de la Coupe du Monde des clubs. Par exemple, c'est quelque chose qu'ils savent très bien faire. Ils peuvent être très agressifs au milieu de terrain. Caicedo, même Enzo. Ils peuvent mettre beaucoup d'agressivité aussi avec un Rich James, avec leurs défenseurs centraux et se projeter très, très vite vers l'avant. João Pedro, Cole Palmer, Neto, Gittens ou Garnacho de l'autre côté, ça peut aller très, très vite. Et je pense que ça va être la tactique utilisée demain. Ça leur dérange pas d'avoir 30-35% de possession de balle, surtout à l'extérieur. Mais est-ce qu'ils sont prêts pour ce niveau-là, pour mais commencer voilà. avec le Bayern? C'est chaud quand même.
Mais oui, c'est chaud. Je pense que personne ne veut prendre le Bayern, en tout cas en entrée de compétition, même un peu plus tard. Tiens, puisqu'on parle d'outsider et de favori, en un mot, chez vous, qu'est-ce qu'on dit? Chez toi, Julien, on dit qu'on fait un débat qui est favori Ligue des Champions cette saison?
Oui, surtout avec les bookmakers qu'on a ici. D'ailleurs, le Bayern est plutôt haut placé. Le PSG reste en tout cas le favori pour l'instant. Il y a une raison pour laquelle aucun club sur les 8 dernières années a gardé son titre de champion d'Europe. J'aimerais beaucoup que ce soit le PSG. Je pense que Liverpool et Arsenal, pour moi, sont les deux, plus que City, plus que Chelsea, plus que Newcastle et Tottenham. C'est les deux qui, selon moi, peuvent aller le plus loin possible. Et je pense qu'Arsenal, qui parfois peut être plus une équipe de coupe qu'une équipe de championnat, finalement, peut aller encore un degré au-dessus. Ils ont fait quart de finale, demi-finale sur les deux dernières saisons. Je pense que ça peut aller encore plus haut.
Edgar, chez toi, on dit Real ou Barça?
Je dirais de manière générale, bon déjà évidemment ça dépend où tu poses la question, mais je pense que le Barça est vraiment vu comme un favori en Espagne de la Ligue des Champions parce que on estime ici qu'ils auraient sûrement dû passer face à l'Inter ou en tout cas qu'ils auraient pu passer face à l'Inter et que ça aurait pas été la même histoire face au Paris Saint-Germain en finale. Et mine de rien, t'as Lamine Yamal qui sera peut-être cette saison le joueur le plus différentiel de la compétition avec peut-être Kylian Mbappé s'il continue sur les mêmes standard qu'il est en train de commencer sa saison. En plus, c'est une saison de Coupe du Monde, donc évidemment, vous les connaissez, les Espagnols, ils donnent le Real et le Barça favori. Le Barça, plutôt grâce au jeu qu'ils ont proposé la saison dernière et grâce au fait qu'ils ont Lamine Yamal, évidemment. Et le Real aussi, parce que tous les ans, on cite le Real Madrid parmi les favoris, évidemment. Ça c'est culturel.
Daniel, c'est un sujet chez toi ou pas, le vainqueur final avec des champions?
Non, on n'en parle pas parce que c'est mieux. Mais on a parlé pour l'Inter, tu sais. L'Inter, elle avait toujours le bout de gagner, mais après la saison, elle est mal partie. Moi, j'ai dit attention à Naples, parce que franchement, c'est une équipe montée en puissance, améliorée par Conte, plus profonde avec plus de joueurs pour refaire les deux compétitions. Après, c'est complètement, comment dire, un mystère, parce que ça fait longtemps que elle fait pas des coupes. On sait que Conte, il a pas forcément un feeling avec les coupes européennes, mais bon, on va voir. Et après, si je peux me permettre, je fais aussi les noms de l'OM, parce que mon meilleur ami.
Comment?
En France,
non, c'est sérieux, si c'est l'after.
Tu sais, moi, j'ai aussi des amis. Moi, j'ai vécu à Paris, mais mon meilleur ami, il supporte l'OM, donc je dois dire l'OM.
Ouais, avec la liste de courses de l'OM, garçon, on va attendre quand même. Dans un instant, on parlera encore de Ligue des Champions avec les drôles de dames, bien sûr. On parlera aussi de Ruben Amorim, qui lui en est privé avec Manchester United. Évidemment, combien de temps va-t-il encore tenir à la tête des Red Devils? Tiens, l'Atalanta, qui joue avec des champions cette saison et qui commencera par le Paris Saint-Germain. Est-ce que l'Atalanta est une menace crédible, au moins sur la première journée face à Paris? On va en débattre ensemble avec les drôles de dames. Vous écoutez RMC 20h58. On revient dans moins de 2 minutes 30. À tout de suite.
RMC.
Moi, je pense qu'on n'a plus des grands artistes. Il n'y a plus de Salvador Dali. Il n'y a plus de Andy Warhol. Je pense que les footballeurs aujourd'hui, c'est les grands artistes de cette société.
Non, mais j'ai peut-être dansé sur Coldplay, mais je ne devais pas être agent.
Il ne faut pas attendre.
Toujours 0-0 dans cette finale de la Ligue des Champions. Ça va être tiré de la droite vers la gauche.
C'est con, il a tout loupé. Il a tout loupé. Mais non, pas toi, Julien.
Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Julien Laurence, avec Paulo Breitner, Edgar Grelot et Daniele Manoussia, on est ensemble jusqu'à 22h. L'After prendra le relais comme tous les soirs, jusqu'à minuit. Ce sera ce soir, bien sûr, avec Gilbert Bribois. Dans un instant, on parle de l'Atalanta, adversaire du PSG pour la première journée de Ligue des Champions. On parlera aussi de la Juve, vainqueur dans un match fou de l'Inter. Et également au programme, Francfort est-il condamné en Ligue des Champions par son calendrier? D'abord, j'ai une question sur la chaîne WhatsApp, sur le compte WhatsApp d'RMC pour toi, Edgar. Dylan, qui a 19 ans, qui nous écoute depuis Yaoundé au Cameroun. Il me dit, en parlant du Real Madrid, qui est mon club de cœur, j'ai une question. Vu la forme du Real qui est en construction, que faire de Rodrigo? On a vu encore ce week-end qu'il n'a pas été titulaire. Ça m'intrigue beaucoup. Alors, ta réponse.
Oui, mais sa situation est intrigante.
Et ta ligne également aussi. La liaison est intrigante. On va essayer de la retrouver avec toi. Rodrigo qui est intéressé. Manchester United, je crois. Beaucoup de clubs anglais s'intéressaient à lui, Julien.
Il a été offert à terre entière. C'est pas forcément les clubs qui étaient intéressés.
Offert, ça va un prix quand même, mais en tout cas proposé, quoi. Parce que c'était
oui,
cher.
Oui, proposé, Rodrigo. Ça. Il a été offert. Oui, il a été offert. Ses agents l'ont offert. Enfin, oui, proposé, si tu veux. À toute l'Europe et personne n'est venu.
Personne n'est venu, ça aurait peut-être pu faire du bien à United qui s'est incliné pour la troisième fois cette saison. Quatrième match en quatre matchs, c'était ce week-end sur la pelouse de City, 3-0. Les Red Devils sont 14e de Première Ligue, je rappelle qu'ils ont fini 15e la saison dernière. Avant que tu nous en parles, Julien, je voudrais qu'on écoute un ancien joueur de Manchester United, une légende, Roy Keane, c'était sur Sky Sports après match. Il a été aussi rugueux qu'il était sur le terrain quand il a parlé de son équipe après la défaite. Écoutez.
Try tackling.
Yeah.
Try hitting somebody.
Tu regardes les stats du match et là c'est terrible. Pas un seul carton jaune. Pas un seul carton jaune. On parle du derby de Manchester. Il pleut, il y a des tacles de partout. Et là, United sort du terrain. Non mais, j'en ai marre de me répéter. À l'arrivée, tu devrais être incapable de te lever pendant une semaine. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Qui n'ont pas pris un seul jaune. Mais essaye de tacler, essaye de toucher quelqu'un. Le foot, c'est un jeu physique.
Il était colère, Roy Keane. En même temps, on le comprend quelque part aussi. Bon, ça vient de lui, qui était un milieu de terrain rugueux, certes, mais il voit aucune agressivité. Il voudrait voir à minima un semblant d'intensité, en tout cas d'agressivité.
Ouais, et la raison, c'est ce qu'on n'a pas vu hier. Alors, on l'a vu contre Arsenal, notamment lors de la première journée à Old Trafford. On l'a vu la saison dernière dans les gros matchs, notamment. C'est pour ça, dans l'analyse d'avant-match qu'on avait fait de ce match-là, dans l'after notamment, on avait parlé de ce que United avait fait de très bon la saison dernière, notamment contre les gros, où en général ils étaient plutôt au niveau, que ce soit City, Liverpool, Arsenal, en championnat, en Coupe d'Angleterre. Et ben pas hier. Et le problème, c'est que à l'image de Roy Keane, je pense que pendant un moment Amorim a eu avec lui, les anciens joueurs de United qui sont devenus consultants et qui sont très très influents en Angleterre, Roy Keane, Gary Neville, mais aussi un Rio Ferdinand, un Paul Scholes. Et là, depuis hier, c'est l'acharnement. Et je pense qu'ils ont raison. Ce qu'on a vu hier, c'est plus acceptable maintenant. Il y a des moments où on a pu dire, il y a un peu de progrès, on essaie de voir, on arrive à voir ce qu'ils essayent de faire. On est tous unanimes sur le fait que c'est un système, ce système-là, il n'y a que lui qui joue comme ça, encore une fois. C'est un système qui ne convient pas à l'effectif. Je pense qu'il ne convient pas au football anglais, à la Première Ligue en général, déjà. Mais bon, il est...
Il ne veut pas changer.
Il a encore dit hier, je bougerai le pas. Système... Ouais. Voilà, il a dit le système ne changera pas. Si vous voulez changer, vous devez changer l'homme. Le système ne changera pas. À un moment, ça va lui coûter cher. Mais bon, c'est 8 victoires en 31 matchs de championnat depuis qu'il est arrivé. Le pire record de l'histoire du club depuis la Seconde Guerre mondiale. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que même les pires entraîneurs de l'histoire de United avant lui... On fait mieux que ça. 8 victoires en 31 matchs. Il a 31 points en 31 matchs de championnat. C'est un point par match. On est du niveau de la relégation, là, quasiment. Donc, c'est très compliqué. Et peut-être le pire, finalement, hier, c'est que en fait, tout ce qu'on a vu de la part de Manchester City, c'était pas une bonne première période, c'était pas une bonne équipe de Manchester City en première période. Ils ont été bien meilleurs en seconde période, mais c'est une équipe de City qui est loin d'être parfaite aussi, comme le Napoli de Daniele va s'en apercevoir jeudi. C'est une équipe qui est prenable en ce moment, qui est encore en transition. Il y a plein de choses à régler pour Guardiola, etc. Bref. Et pourtant, on savait très bien ce que United allait faire et comment City allait contrer United. On savait très bien qu'un milieu à deux, Bruno Fernandes ou Ugarte, c'est pas possible à ce niveau-là. Je suis désolé, j'aime beaucoup Ugarte. En plus, c'est un ancien parisien, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas possible. Le niveau est trop haut pour lui. Et Bruno Fernandes, c'est pas son poste. Et c'est pas la première fois qu'on le dit. On va le répéter. Et Guardiola a très bien vu tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis beaucoup de joueurs dans l'axe du milieu de terrain. Forcément, ça a créé un surnombre pour Manchester City. Forcément, United était à la rue, notamment en début de seconde période. Et c'est très compliqué pour eux. Et je l'ai dit et je le répète, que tu aies dépensé quasiment 250 millions d'euros sur Cunha, Mbomo et Chesco à l'intersaison, très bien, c'est ton argent, fais-en ce que tu veux. Mais que tu n'aies pas recruté un milieu de terrain digne de ce nom pour cette équipe-là, pour ce système-là, c'est juste incroyable. Mais sincèrement, c'est hallucinant, je trouve.
Mais Julien, où est Ineos là? Où est la direction? Où est Jim Ratcliffe? Est-ce qu'il y a une parole officielle, en tout cas, sur la série terrible? Il y a une stat qui est effrayante pour United. Si le championnat avait commencé à la prise de fonction d'Amorim, United serait dernier de Première Ligue, hein, si on exclut les relégués et les promus de l'an dernier. Où est Ineos là, dans cette affaire-là?
Ineo, on a vu sur Jim Ratcliffe hier, alors ils ont mis du temps à le trouver dans le stade, ils ont fini par le trouver à la fin, après le 3-0, le pauvre, il avait l'impression qu'il avait perdu toute sa fortune, toute sa famille, toutes ses maisons, toutes ses voitures, tout ce qu'il a, quoi. Il avait l'impression que le pauvre, en plus, il avait plus beaucoup. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, quasiment 2 milliards d'euros, pas loin, pour un quart des parts du club. Donc, il est même pas décideur parce qu'il a pas assez de. Pour l'instant, il s'occupe du sportif, mais au-dessus de lui, les Glazers continuent. Ça reste les patrons de toute façon. Et quand on voit ce qui lui arrive et ce qu'il a fait depuis un an, qu'il est entré dans le capital de son club. En plus, c'est son club, lui, qui est du sud de Manchester. Je sais pas, enfin c'est du gâchis ça, mais de toute façon c'est un gâchis incroyable ce club depuis le départ de Sir Alex.
Alors oui, rappelle-moi quelle année il est parti Ferguson?
2013, le dernier titre.
Donc ça fait 12 ans que ce club végète, n'arrive plus à jouer à un titre en Première Ligue ou être ambitieux sur la scène européenne.
Oui, il y a quelques bons moments. Mourinho, une victoire en Europa League, une deuxième place en championnat. Il y a eu beaucoup d'argent dépensé, mais tu as eu aussi beaucoup d'instabilité à tous les niveaux, que ce soit chez les entraîneurs, les directeurs sportifs, même tout en haut du club chez les directeurs exécutifs. Tu as eu, pendant que les autres avançaient, en tout cas dans la bonne direction, tu avais vraiment l'impression que United, même quand il y avait un pas en avant, ils en faisaient deux en arrière pas longtemps après. Et entre la gestion sportive, la gestion financière, tout ça, c'est vraiment un gros gâchis. Et c'est dommage. On n'est qu'à la quatrième journée. Ils vont peut-être s'en sortir. Et je souhaite à Amorim le meilleur. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. Et samedi, ils reçoivent Chelsea, à Old Trafford. Pour moi, s'ils perdent et qu'ils prennent une volée encore, ça peut vraiment, à mon avis, pour lui, hein, la pression sera trop intense.
Bon, Edgar est de retour. Pour le tout, les réagir?
Non, mais
sur United?
En fait, j'ai deux questions. Un, je donne les clés à Julien pour United, qu'est-ce qu'il fait? Et deux, je me rappelle quand même que les succès de Sir Alex, c'était un succès à football très anglais, son fameux 4-4-2 avec beaucoup de joueurs anglais. Ouais. Et évidemment, on fait 12 ans, là, 2013, je me rappelais même plus que c'était ça, il y a eu, c'est vrai, deux deuxièmes places, je crois, en championnat de mémoire. Ouais. Mais je vois pas. On a presque l'impression que le club meurt tranquillement, quoi. C'est-à-dire que les coachs passent et puis il se passe rien. Ok, il y a des victoires en Europa League, mais bon. Quoi,
non, mais t'envoies de l'oseille tous les étés en espérant des jours meilleurs, quoi.
Mais je me demande si c'est pas, j'ai pas envie de dire structurellement, mais en fait, Sir Alex, c'était le Britannique dans toute sa splendeur. Avec un football, et donc aujourd'hui, très bien, on va chercher les Portugais, on va chercher les Allemands, on va chercher les Néerlandais. Italiens, ça marche pas, les Néerlandais, et puis finalement, bon.
Ouais, je sais pas. Après, hier, juste pour finir, Bruno Fernandes après le match, c'est souvent lui qui vient quand ça se passe pas bien, c'est le capitaine, très bien. Il a quand même répondu un moment sur la tactique, et puisque de toute façon, au cœur du problème, il y a ce système tactique là. On va pas en refaire des tonnes et des tonnes, mais c'est la vérité. Tu peux être très bon dans ce système-là, bien sûr. Son Sporting à lui, à Amorim, l'a été. Mais encore une fois, que ce soit le seul gros club en Europe qui joue comme ça, rien que ça, déjà, ça doit
alerté un petit peu. Et,
mais c'est quoi, s'il change pas, c'est par orgueil, tu penses? C'est un têtu Amorim, ou c'est juste qu'il est convaincu que c'est la bonne solution, que c'est le bon système pour arriver à ses fins?
Un peu des deux.
C'est que l'orgueil.
Mais hier, Bruno dit, quand on lui parle du surnombre, enfin du sous-nombre pour United au milieu de terrain notamment, il dit bah oui, mais quand on joue en défense à 3 ou à 5 ou à 4, on sait plus trop, et qu'au milieu de terrain, on n'arrive pas à suivre tout le monde parce que bah derrière, il faut que les défenseurs centraux, puisque t'en as 3, puissent monter au milieu de terrain aussi pour nous aider, et ben on prend l'eau en fait. Et ça veut dire qu'on commence déjà à avoir aussi même le plus fidèle des fidèles parmi les fidèles. Je veux dire, Bruno Fernandes et Amorim, c'est la famille, quoi. Si même lui commence, même de façon un petit peu, on va dire, masquée ou voilée, à critiquer le système, le milieu de terrain, c'est que ça va vraiment pas bien, quoi. Vraiment, vraiment pas bien. Donc, à voir ce qu'il va faire. Mais moi, je pense qu'il changera pas. Et je pense que ce système-là peut pas réussir.
Et qui sautera dans quelques semaines, peut-être également. Exactement. En tout cas, la pression n'a jamais été aussi forte sur Ruben Amorim. Bien sûr, on suit ça tous les lundis soirs. Tiens, un but a été marqué en Ligue 2 entre Guingamp et Montpellier, Xavier Grimaud.
Ouais, l'ouverture du score pour l'en avant. Guingamp avec une mauvaise alignement, mauvaise sortie de la défense montpellierenne. Et Donatien Gomis, suite à un corner, il est resté aux avant-postes et il vient couper la trajectoire alors que l'ancien Marseillais Simon, le gardien, était sorti un peu à la pêche là. Et il peut lober le gardien et donc ouvrir le score. C'est logique, hein, Guingamp était l'équipe qui dominait sur ce début de rencontre. On atteint la demi-heure, 1-0 donc pour l'en avant face à Montpellier.
Alors Edgar, on en est avec Rodrigo justement.
Oui, j'ai pas essayé d'éviter la question hein, tout à l'heure. Hein. C'est juste un problème de ligne, je vous rassure. Non, mais Rodrigo, effectivement, comme a dit notre auditeur, c'est une situation intrigante, tout simplement, parce que il fait partie de ces joueurs qui parfois fait des tours sur le banc, puis le match d'après, il est titulaire. On nous expliquait que quand Xabi Alonso est arrivé, il avait une super relation avec lui, qu'il lui parlait tout le temps à l'entraînement, etc. Résultat, il a fait je sais pas combien de matchs d'affilée sur le banc. Évidemment, on a parlé tout l'été d'un potentiel départ. Ça semblait, au vu de la saison dernière, presque inévitable qu'il y ait soit Vinicius Junior, soit Rodrigo qui partent, et donc plus probablement Rodrigo. Finalement, il est là. Lui, il a vraiment montré son envie, son ambition de réussir au Real Madrid. C'est son rêve. Il a déjà réussi au Real Madrid, mais maintenant, il faut réussir sur la durée s'il veut vraiment devenir une légende du club. Dès qu'il en a l'opportunité, il essaye de montrer son amour pour ce club-là, mais maintenant, il va falloir surtout gagner en régularité, parce que Rodrigo, quand on prend sa dernière saison, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop irrégulier. Oui, c'est un superbe joueur qui est capable de te faire des grands matchs et qui est un homme des grands matchs de manière générale, mais on a besoin de plus pour être titulaire au Real Madrid.
Un homme qui a besoin d'enchaîner les matchs, ce qui n'était pas le cas la saison dernière, oui, en réalité, c'est ça.
Oui, mais la saison dernière, pardon, il avait presque un totem d'immunité, c'est-à-dire que il faisait 10 matchs d'affilée qui étaient plus que moyens, et il était quand même titulaire. Et ça, pour le coup, c'est vraiment fini avec Xabi Alonso, qui n'hésite pas à mettre un tel ou un tel sur le banc, que ce soit Rodrigo ou même Vinicius qui a été sur le banc. A priori, ça peut-être pousser Rodrigo aussi à être un petit peu plus régulier. En tout cas, c'est ce qu'espère Xabi Alonso, évidemment.
Alors, l'Atalanta, Bergame, adversaire du PSG mercredi soir, qui s'est rassuré Daniele ce week-end, victoire 4-1 face, c'est vrai, au dernier de Serie A, hein, la Lecce. Oui. Comment l'Atalanta aborde ce retour en Ligue des Champions face au PSG qui plus est? Il y a beaucoup d'absents déjà. Hein.
Ben oui, déjà c'est une revanche du quart de finale joué en plan Covid en 2020, la première fois que l'Atalanta, les supporters de l'Atalanta peuvent aller à Paris parce qu'ils ont joué à Lisbonne ces matchs-là. En plus, je ne sais pas s'ils ont pu faire les déplacements. Et déjà, ça, c'est très important parce que c'est les bouts de chaque équipe petite comme l'Atalanta. Parce que, je rappelle, c'est l'équipe de Bergame. Elle était très bien gérée, mais c'est vraiment pas dans les puissances en Italie. Le fait qu'elle joue la Champions League, c'est important. C'est un bon message. Ça veut dire que si on travaille bien, pas différemment que le Manchester United, on peut arriver à jouer ce genre de match. Et voilà, en plus, ces matchs-là contre Paris, il le gagnait à la 90e minute. Après, il y a eu le but de Marquinhos. Et après, celui de Choupo-Moting. Donc voilà, c'était un très beau match. Ils l'ont très bien joué. Mais là, c'est une différente Atalanta. Gasperini, il est parti après 9 ans. Et Juric, qui est arrivé après 2 saisons horrible avec la Roma et les Southampton, on ne sait pas s'il est, comment dire, au niveau. C'est le beau-fils, on va dire, de Gasperini, un de ses élèves. En Italie, on est plein d'élèves de Gasperini, marquage individuel, pression très haute, mais l'Atalanta, elle est pas comme ça vraiment pour le moment. C'est pas la machine de pressing que Guardiola a comparé à une séance chez le dentiste. Et, mais c'est vrai qu'au présent, les équipes, du moins en Italie, sont habituées à jouer contre les marquages individuels et à les faire échouer en jouant en profondeur. Donc, il faut voir déjà comment Paris va s'en sortir si l'Atalante, elle va vraiment le prendre sur le haut du terrain. Après, il n'y a pas Lookman, leur meilleur joueur.
Il faut expliquer, effectivement, il y a un gros conflit avec Lookman. Juric n'en veut pas, hein, qui dit bon.
Non, c'est lui, c'est Lookman qui a quitté l'entraînement. Après, Juric, il venait de dire, voilà, si lui il est sérieux, moi je le rentrerai et tout. Et lui, il a pas voulu s'entraîner, il s'est pas montré dispo, il a quitté. Donc voilà, là on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'à janvier il va. À ce point-là, c'est mieux s'il va à l'Inter.
Oui, c'est ça. Après, l'Inter avait proposé 45 millions d'euros cet été, hein, justement. Ça n'a pas suffi à convaincre les dirigeants bergamasques.
Bah oui, mais c'est
le Retegui déjà.
C'est les montants.
Oui,
ils avaient perdu Retegui, donc ils ne voulaient pas vendre Lookman. Et en plus, c'était la manière dans laquelle l'Inter l'ont demandé. Ils l'ont déjà dit aux journaux. Ils ont dit oui, on va prendre Lookman et tout ça. Et je pense que Pierre Cassi, qui est le président de l'Atalante, il n'a pas mis la manière, le style. Après, ils n'ont pas Scamacca parce qu'il est encore blessé au genou. Après, je ne vais pas en faire trop. Sinon Julien il n'est pas content. Ils n'ont pas Ederson qui c'est leur milieu terrain, un des meilleurs en Italie dans les passés, et qu'il a été opéré du genou le mois de août et il va revenir pour octobre. Et ils n'ont pas Kolasinac qui à la défense il était assez important. Et ils ont gagné 4-1, tu viens de le dire, contre Lecce, qui c'est une des équipes destinées on dirait à la relégation. Après on va voir, mais Di Francesco leur entraîneur, il a été relégué deux fois de suite avec d'autres équipes. Lecce, ils ont déjà obtenu la troisième permanence en Serie A historique. Donc ça, c'est un peu l'année sur laquelle Lecce, il va descendre. Mais ils ont fait un beau match. Et ils ont mis un peu en difficulté l'Atalanta, qu'après, dans la deuxième période, ils ont mis leur but. Dès qu'Etelar, il est très en forme.
Qui met un doublé.
Zaliski, ouais. Oui, Zaliski, il est très en forme. Mais d'ici à donner des problèmes au PSG, même non. Avec tous ses remplaçants, c'est très, 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 très difficile. Mais voilà, s'ils font le match de leur vie, pourquoi pas?
Ce sera sans Kolasinac, tu l'as dit, Ederson, Scamacca et Michel Baker, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Justement, ce sera mercredi soir à 21h sur RMC. Le débrief dans l'after, bien sûr. Allez, on enchaîne par une nouvelle minute ce soir. Elle est espagnole. On envoie la musique, Polo. Si todo se apaga, tú eres mi luz. Cuando tú y yo conectamos.
Mi luz. Ma lumière, c'est une chanson des artistes espagnols RVFV et Rels B. Je vous conseille très très forcément ce son. Hein. D'ailleurs, faites-vous plaisir. Moi, je l'écoute beaucoup. Voilà. C'est peut-être pas ton style, Nico, mais moi, ça me fait kiffer. Voilà, je vous le dis.
Là, c'est bien, j'ai un polo en studio qui...
Je vois
les réactions sur le visage de Polo.
Je suis avec toi, Edgar.
C'est pas dans sa playlist. Mais moi, j'adore cette chanson. Voilà. Allez l'écouter.
Daniele, c'est ta cam ou pas, ça?
Je peux l'écouter, oui, pendant que je fais autre chose.
La vaisselle, par exemple, et encore. Vas-y, Edgar. Ouais.
Bon, on est des hommes de la radio. Des fois, t'écoutes d'une oreille et tu fais autre chose en même temps. Voilà. Dans cette chanson, en plus, il y a des paroles révolutionnaires. Il y a cette phrase qui va vous mettre les larmes aux yeux, j'en doute pas. Si tout s'éteint, tu es ma lumière. Et arrête à fait, ça fait un moment que tout est éteint et que la lumière s'appelle José Bordalas. C'est l'entraîneur de cette équipe. Et sans lui, Retafe serait sûrement en deuxième division. Hein. C'est un coach qui provoque des miracles permanents, on a l'impression. Retafe, actuellement, c'est 3 victoires en 4 matchs, 3e de Liga. Ils ont commencé la saison en gagnant à Vigo avec seulement 13 joueurs professionnels inscrits, dont 2 gardiens. Ils ont même pas pu faire tous leurs changements. Ils avaient fait un seul changement en deuxième période. Ils avaient réussi à gagner. Ils ont des gros problèmes financiers, des grosses difficultés avec le fair play financier. Mais Bordalas, il fait avec. C'est un entraîneur que certains n'aiment pas. Certains trouvent qu'il est anti-football, qu'il gare le bus. Mais c'est surtout un entraîneur qui s'adapte à ses joueurs. Et il le répète souvent, l'important, c'est de faire au mieux avec les qualités que tu as. Alors, des fois, ça veut dire qu'il va adorer un bon vieux 4-4-2 à plat classique. Des fois, comme sur ce début de saison, il n'hésite pas à mettre 5 défenseurs. En tout cas, c'est jamais facile de jouer Retafe. Ils ont cette réputation-là. C'est une équipe, je le disais, qui a très peu de moyens. Ils ont dépensé moins de 2 millions d'euros cet été pour acheter des joueurs, alors qu'ils ont vendu pour 12 millions d'euros. Mais voilà, Bordalas s'y fait avec. C'est quelqu'un de super passionné sur le bord du terrain, super investi. On voit des joueurs qui donnent l'impression de partir à la guerre presque. Et tout ça, ça m'a fait penser, vous savez, à la fameuse citation de Sir Alex Ferguson qui dit « Donnez-moi donnez-moi 10 bouts de bois et Zidane et je gagnerai la Ligue des Champions. Et ben, Bordalas, évidemment, il a mieux que 11 bouts de bois, mais j'ai l'impression que si on lui donnait 11 bouts de bois, il se maintiendrait quand même en Liga. C'est Monsieur Miracle, José Bordalas.
Tu me dis quand même que c'est assez moche à voir, c'est pas esthétique.
Ah, c'est le pire football de l'histoire.
Tu me parles du GIGN sur un terrain de foot, quoi. C'est une équipe de militaires, autrement. Bref.
Bordalas. Voilà, c'est le mot boucher souvent.
Mais c'est beau, hein, le match sur un homme qui nie l'esthétisme du jeu, mais.
Moi, si je suis supporter de Retafe, je préfère jouer comme ça en Liga. Mais bon, ça, c'est chacun ses goûts.
Très bien. C'est la minute d'Edgar, musicale, discutable. Serge, j'ai du mal à croire que Julien aime vraiment ce son. Julien, c'est vrai?
Si, tu veux Bad Bunny, mais moi, Maluma.
Ah, c'est Bad Bunny, c'est le mec que ma fille est allé voir.
Ah non,
c'est pas Bad Bunny là.
Non, mais on n'est pas très très loin.
Ah, pas très loin.
Voilà. On est dans l'esprit un petit peu reggaeton. On est voilà, dans ce qui marche très bien en Espagne. Et en Amérique du Sud. Merci Julien. Voilà.
Julien veut pas vieillir en fait. La vérité elle est là. Allez, dans un instant la suite. La grande Juve est-elle de retour? On en parle avec Daniele et
Hermano. Vamos.
L'Eintracht Francfort est-il condamné à la Ligue des Champions par son calendrier dingue? On va le citer, les 8 matchs de la phase de Ligue pour les Allemands. À tout de suite sur RMC avec les drôles de dames.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After avec Roland Breitner, Julien Laurence, Edgar Grelot et Daniele Manoussi. À rapide détour par la Ligue 2, Guingamp-Montpellier. Où en est-on, Xavier Grimaud?
On approche de la pause, la 43e, toujours 1-0 pour l'en avant, avec qui ont failli doubler la mise après une très belle action collective, un centre venu de la gauche et Mafuta qui était un petit peu court. C'est assez pauvre pour l'instant Montpellier, juste une frappe au-dessus d'Alexandre Mendy à vous raconter. La 44e, 1-0 pour l'en avant Guingamp, le buteur c'est Donatien Gomis.
Et à l'étranger en Liga, 4e journée, la fin de la 4e journée, l'Espagnol Barcelone mène 1-0 face à Mallorca, 0-0, c'est terminé entre Hellas Vérone et la Cremonese qui reste quand même dans le trio de tête. Et on me dit à l'instant, mon cher Daniele, que Côme mène 1-0 grâce à un but exceptionnel de Nico Paz.
Eh oui, encore une fois, il a fait un 360 sans le skate. Et pour s'en sortir, parce que faut dire, le jeune de Vieira, c'est une équipe assez brutale. Ils ont essayé de. Il tape les joueurs de comment au début de match. Ouais, lui, il a bien sorti avec ses dribbles. Après, il a mis une frappe superbe avec son pied gauche, vraiment exceptionnel.
Bon, Daniele, match de folie samedi soir à Turin. Tu l'as déjà débriefé dans l'after il y a 48 heures. La Juve qui a renversé l'Inter après avoir été menée 3-2. Beaucoup d'histoires dans ce match. Tu as rappelé celle des frères Turin, bien sûr. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce résultat, déjà, après 3 journées, peut changer les ambitions des deux équipes? Commençons par la Juve, dont toi, si je me souviens bien, au début de l'été, tu en as fait un des favoris pour le Scudetto.
Bah oui, moi j'avais dit que c'était, en tout cas ça pouvait être un possible outsider, même si de dire que la Juventus est un outsider c'est toujours bizarre, mais après ils ont complété leur marché avec Openda et Zegrova, donc ils ont encore amélioré leur équipe. Je pense qu'ils sont vraiment dans la course. Après, il faut voir si ça tient. Ils ont pas très bien joué. C'est-à-dire, ils ont mis les 1-0, ils ont été égalisés par Çalhanoğlu, ils ont mis les 2-1. Mais pendant tout ce temps-là, ils ont que défendu. C'était pas la Juventus qu'on était habitué à voir au début de saison dans les autres matchs, très haut dans les terrains. Mais là, elle était passif. Elle a laissé les ballons à l'Inter, qui elle a eu les 65% de pourcentage de possessions. Et ils ont défendu, ils ont mis ces bouts-là, mais pour plutôt des beaux gestes individuels. Notamment, il y a eu un but très très beau de Ilditz, mais dans ces matchs tous les buts ils sont beaux. Çalhanoğlu, il a mis une doublée incroyable. Et par contre, il faut dire, l'Inter, ils ont bien joué. Il n'y a pas un joueur ou plusieurs joueurs de l'Inter qu'ils ont mal joué. Les supporters là, ils l'ont un peu contre Akanji aussi pour le but de Kelly. Et ils disent qu'il devait marquer plus de près Kelly, mais moi je pense que c'est pas vraiment sa faute. C'était une situation assez exceptionnelle. Et Bremer, il a fait deux assists. Les défenseurs du centre de la défense de la Juventus, il a mis deux assists dans les mêmes matchs. Donc, pour dire aussi la folie du match. Mais une fois que la Juventus elle a été menée par l'Inter, quand l'Inter a mis les troisième but, 3-2, par Marcus Thuram, ben là, Tudor, il a mis Openda, Jonathan David, il a mis João Mario, qui est beaucoup plus offensif que Kalulu sur l'extérieur de droite. Et il a commencé à presser en haut l'Inter. Et là, aussi, Kefren Thuram, il a joué beaucoup mieux, parce que c'est un joueur qui joue beaucoup mieux quand il peut défendre vers l'avant plutôt qu'en position où il a laissé Çalhanoğlu. Il a mis 6 frappes dans tout le match. C'est quand même exceptionnel. C'est un match qui montre aussi une tendance un peu dans les championnats italiens. Les équipes, elles ont des difficultés à rentrer dans la surface avec les ballons. Donc, soit on met des centres, et l'Inter, elle a mis beaucoup de centres aussi hier, soit on essaie de frapper de l'extérieur de la surface. Et ça, c'est un problème un peu. Ça devient un peu un problème parce que ça montre que ça manque des qualités dans les dernières 20-30 mètres. Et c'est une chose à améliorer pour l'Inter, mais aussi pour la Juventus. Bon, après, l'Inter, 2 défaites dans les premières 3 matchs de championnat. C'est inattendu. Et là, déjà, le match contre l'Ajax à Amsterdam de mercredi, c'est un peu un match qu'il faut gagner. Sinon, qui vous... Voilà,
déjà,
il va avoir chaud aux fesses. Déjà, je ne sais pas si on peut dire ça.
Oui, si, tu peux le dire, hein, chaud aux fesses. C'est très, tout à fait poli, Daniele. Oui. Il serait déjà sous pression, tu penses, qui vous...
Mais là, il est Marotta, et pas directement. Ils n'ont rien dit, et ils n'ont pas laissé des interviews, mais les journaux... Il a toujours filtré des choses, il les défend. Ils ont accusé la superficialité de certains joueurs. Ça, c'était l'expression reportée par les journées. On ne comprend pas avec qui il avait. C'est possible même qu'il avait contre Marcus Thuram parce qu'il a souri. On ne sait pas. Ou contre Sommer, parce que sur le dernier but incroyable de Hadžić, il arrive avec ses mains, mais il n'arrive pas à repousser les ballons. Mais on ne sait pas. Mais pour le moment, il les défend. Après, on ne peut pas les défendre tout le temps. Il faut aussi assurer des résultats. Et sinon, il faut essayer de changer. Et en Italie, quand il faut changer, la première chose qu'on change, c'est souvent l'entraîneur.
Ouais, donc on va suivre ça. Qui vous, tu l'as dit, Amsterdam, sur le terrain de l'Ajax, c'est mercredi soir en Ligue des Champions. L'Inter a déjà 6 points de la Juve et du Napoli après seulement 3 journées. La Juve qui va affronter le Borussia Dortmund, ça c'est demain soir en Ligue des Champions. Polo, Dortmund qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse d'Edenheim, deuxième de Bouli, hein, 7 points sur 9. Comment tu juges ce début de saison des hommes de Kovac? Avec ton micro, vas-y.
Et il faut rappeler que lors de la première journée, il y a eu un fameux 3-3 entre Szampaoli et Dortmund, et que c'est pas qu'on réclamait la tête de certains joueurs, mais donc c'est un peu compliqué. Là, ils ont réussi à redresser la tête. On peut pas dire que c'est extraordinaire dans le jeu. Par contre, c'est cohérent, façon Niko Kovac, évidemment très méticuleux. Ce qui est toujours intéressant lorsqu'il y a Juve et le Borussia Dortmund, bah tu vois, on va toujours chercher un joueur allemand qui a joué pour les deux clubs, donc Andreas Müller, évidemment, et puis la fameuse finale de Ligue des Champions de 1997, en oubliant que la plupart du temps, la Juve l'emporte lorsqu'il rencontre le Borussia Dortmund. Je pense que ça va être un super test pour le Borussia Dortmund pour voir où ils en sont en Ligue des Champions. Il va falloir... Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment avec Adeyemi et Bayer derrière Guirassy. C'est-à-dire, en gros, on joue beaucoup sur les contres et on essaye de tenir la baraque, etc. Le match de ce week-end était fondamentalement pas intéressant puisque Heidenheim, étant déjà un candidat à la relégation, trouve le moyen de se faire expulser son joueur après un quart d'heure de jeu. Donc, en fait, c'est un peu comme Bayern-Hambourg. Donc, moi, l'intensité va évidemment être plus importante contre la Juve, sauf à penser que la Juve va laisser quelques plumes contre l'Inter. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Moi, ça va permettre un peu au Borussia de se tester, voir ce qu'on peut faire. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'ils vont se qualifier pour le top 24. Top 8, ça va être un peu compliqué, mais ça peut le faire.
Je n'ai pas en tête, là, justement, le calendrier du Borussia Dortmund. Je crois qu'il n'est pas l'un des pires non plus.
Non, c'est vrai.
Pour le Borussia, écoute, on verra ça. En tout cas, pour l'instant, deuxième du Bundesliga après 3 journées. Allez, c'est parti pour c'est la mi-temps entre Guingamp et Montpellier. 1-0 pour Guingamp à la mi-temps face à Montpellier. Match de Ligue 2. La minute musicale anglaise, elle est pour Julien Laurence. On envoie la musique, Paulo. And the man them go cracking again. And the man them go cracking again. Edgar Boulot va kiffer aussi, je pense. Hein.
Bien sûr.
Il y a une filiation sur le vieux, les gars. 20 ans d'écart,
mais. C'est obligé maintenant, mais c'est
même culture, c'est beau.
Je vous laisse un petit peu quand même kiffer.
Ouais, bien sûr, on kiffe.
Ouf Daddy de Jay Huss, je vous le conseille bien sûr. Ça vaut vraiment le déplacement. C'est du très très haut, très très haut niveau. C'est une minute qui sert à rien. Je vous le dis tout de suite. Mais vous pouvez l'écouter. Mais elle ne sert à rien. Mais elle m'a fait kiffer. Donc voilà, c'est la minute du soir. Harvey Barnes, l'ailier anglais de Newcastle, a eu un. Enfin, sa femme a accouché ce week-end d'un deuxième enfant pour la famille, ouais. Barnes. Donc un petit Noah qui est donc né le 11 septembre. 11, comme le numéro de son papa, donc Harvey Barnes, qui porte le numéro 11. Mais pas simplement, parce qu'il est né à 11h11 du matin, le petit, le 11 septembre. Et son papa a le numéro 11 dans le dos. Voilà, la meilleure minute.
C'est vrai, non, c'est sérieux, non, c'est une blague là.
Ouais, non, je te jure, c'est vrai. Non, et donc moi j'ai trouvé ça marrant.
Non,
donc,
non, non, c'est juste de nous proposer ça qui est vrai ou pas. C'est sérieux,
enfin,
c'est...
Oui, non, bien sûr, bah oui, je m'en tirerai pas à l'antenne quand même.
T'allais quoi, en 11h11, page 48 du Daily Mail, c'est quoi?
Non, 11h11, le 11 septembre, papa numéro 11 okay. À Newcastle. Magnifique. Voilà, bravo. Moi je dis franchement, respect à la famille.
Ouais, bravo, c'est calculé peut-être. Mais, bravo à madame peut-être aussi.
Je crois qu'on connaissait les Griezmann qui naissent tous le même jour. Bah maintenant on a les numéros 11 pour les Barnes, quoi.
Je croyais que tu allais me vendre l'histoire de ce supporter de United qui travaillait à l'Etihad, à la buvette, et qui a mis un maillot de Manchester United, qui s'est fait virer par le club.
Ouais, qui a été dénoncé et qui s'est fait dénoncé. Virer. Ou alors aussi, pour finir sur ce genre d'histoire, l'équipe de filles de Manchester United, les féminines, qui sont allées jouer en Norvège leur match de qualification pour la Ligue des Champions, et que quand elles sont arrivées à Bergen, n'avaient plus leurs chaussures de foot, qui avaient disparu entre le départ de Manchester et l'arrivée en Norvège. Elles avaient disparu, et donc un responsable du club a dû aller dans un magasin de cette petite ville pour acheter 15 paires de chaussures et 20 paires de protège tibia parce qu'il en manquait trop, et donc elles vont jouer avec des chaussures. Ah, moi, incroyable à ce niveau là je trouve ça hallucinant encore, mais bon voilà, j'ai préféré le numéro 11 de Barnes.
Ce qui est super, c'est qu'avec toi tu peux faire 3 minutes en une seule minute, Julien, bravo à toi.
Voilà, bah, Daniel il fait 15 minutes pour une conviction. Minute
ouais. Daniel, ouais. T'as vu, il était recadré, Daniel.
Mais toi mais la sortie pour combien de temps celle-là?
Qui aurait osé faire une telle minute, les amis, franchement. Bref, Julien Laurence, merci quand même pour l'histoire. Harvey Barnes, donc, qui devient père pour la deuxième fois. J'attends avec impatience celle de la semaine prochaine, mon cher Julien.
Il va nous faire Yacine Bamou qui vendait des maillots à la boutique.
Oui, c'est ça, exactement, tu vois.
Bah, moi, si vous voulez, je peux vous faire du reggaeton italien aussi. Hein.
Tu peux le chanter en direct ou pas, tu crois?
Non, mais je peux.
Il y a déjà Edgar pour le reggaeton qui a fait son apparition cette saison. On y avait échappé depuis quelques temps déjà, mais bon, écoute, pourquoi pas.
Essayez d'insister un peu, Nico, parce que je sens que ça te plaît.
Tu vas insister. Va au bout de ton personnage, hein, et tes goûts surtout. Hein, assume tout. Hein. Regarde, Julien, ça fait des années qu'il assume ses choix. Il est toujours là, malgré tout. Allez, dans un instant, la suite des drôles de dames sur RMC, les 20 dernières minutes au programme. Francfort et le FC Barcelone. On va parler de Pedri. Pedri est-il plus important que Yamal au Barça? Reste avec nous, la suite dans un instant. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Julien Laurence, Edgar Grelot, Paulo Breitner et Daniele Manoussi à la mi-temps, hein, entre Guingamp et Montpellier en Ligue 2, 1-0 pour Guingamp. Tiens, sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, Soufiane nous dit: est-ce qu'on dit chaud aux fesses en allemand, italien, anglais ou espagnol? Il s'interroge également sur la maîtrise des expressions françaises de Daniele Manoussi. Ah, Daniele, t'as vécu en France, hein? Faut qu'on te présente un peu aussi quand même, non?
Oui, connais le pays. Quelques temps à Paris. Non, on dit des choses plus vulgaires en italien. C'est tout plus vulgaire.
Ah, d'accord, plus vulgaire. Vous avez l'expression en tête, les amis, dans vos pays respectifs, ou pas, une expression que vous aimez? Polo, toi, en allemand?
Je suis en train de chercher, là. En plus, le pire, c'est qu'on les entend à longueur de temps.
Surtout quand on parle de foot, hein, j'imagine.
Oui, et puis quand il faut la sortir, évidemment, tu l'as pas.
Julien?
Exactement.
T'as une expression préférée ou pas, toi, en anglais?
Non, pas trop.
Pas trop, super les gars, super minute à l'antenne, magnifique. Edgar non plus.
Non mais je suis comme Polo là.
Si tu veux, je te traduis en italien.
Vous en parlez, c'est tout le temps dans votre quotidien, les expressions toutes faites dans votre langue.
Si tu veux, je te le traduis, Nico.
Ah, vas-y.
Il faut assumer. Hein. Il brûle le cul.
D'accord, j'ai chaud au cul, quoi, c'est ça.
Il brûle.
Ouais, c'est ça. D'accord, ouais, c'est ça. Ouais. Il brûle. C'est une traduction littérale de l'expression.
Oui.
Mais c'est pas une expression italienne.
Si,
aussi, d'accord, oui. Ok, très bien, ça marche aussi. Voilà, parlons de l'entrée de Francfort alors, sur ce moment de solitude. Oui. De retour en Ligue des Champions, mais pourquoi faire? Ça, c'est la grande question, parce que quand on regarde la liste des clubs que l'Eintracht va affronter, il n'y a pas pire, hein, je crois, Polo. Sur tous les clubs, là, on peut l'utiliser devant toi ou pas?
Oui, ouais, je l'ai. Galatasaray, donc, qui a fait un très bon recrutement. Ah, oui. Déplacement à l'Atleti, ils reçoivent Liverpool, ils vont à Naples, ils reçoivent l'Atalanta, ils vont à Barcelone, à Carabagh, et ils finissent par Tottenham. Marcus Krucheux, lorsqu'il y a eu le tirage au sort, a dit de toute façon, on voulait la Ligue des Champions, on l'a, quoi. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, évidemment, moi, ça me passionne. D'ailleurs, le match contre Galatasaray est presque un match à 6 points pour Francfort, et il doit absolument l'emporter, ce qui sera loin d'être évident lorsqu'on voit notamment l'attaque de Galata. Zaraï. Et mais surtout, en plus, le problème, c'est que ça arrive à un moment où on a été très déçus de la prestation, notamment en première mi-temps, de Francfort vendredi, qui affrontait Leverkusen. Leverkusen de Kasper Juhlmann, la nouvelle version. Et en fait, Krucheux, pareil, après la rencontre, il a un peu allumé tout le monde, les joueurs, le coach, les joueurs pour leur manque d'engagement, le fameux Einstellung, c'est-à-dire l'envie qu'on veut avoir, la lutte sur le terrain, le coach parce qu'il lui fait comprendre qu'il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire qu'en gros, si le club est mené, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est un peu ce qu'on reproche à Compagnie, d'ailleurs, version 2025, hein, d'ailleurs.
Pourtant, ils ont l'air proches, les deux, là, en l'occurrence, non ?
Krucheux et Topmöller ?
Ouais, non.
Ouh, la première. Ouh, Krucheux, c'est peut-être le meilleur manager d'Allemagne en fin de Bundesliga pour le moment. Mais moi, je me rappelle, fin de première saison, Francfort se qualifie pour la Coupe d'Europe et il lui fait comprendre qu'il aimerait bien voir du spectacle sur le terrain. Donc, la deuxième saison, Topmöller, il qualifie l'équipe pour la Ligue des Champions très bien. Et là, il n'a pas du tout été content. Et c'est normal parce qu'en fait, on a vraiment été déçus par la prestation de Francfort où il y avait beaucoup de jeunes sur le terrain, notamment le jeune Uzun, qui est bourré de talent. Ah oui. Mais encore une fois, quand tu vas jouer Tottenham, l'Atleti de Simeone et tout ça, ça ne va pas être évident. Et c'est vrai que quand tu vois le. Mais moi, c'est en fait ce qui m'intéresse, c'est que j'ai. Ça pourrait tomber, ce tirage au sort pourrait tomber sur n'importe quelle équipe européenne. Sauf que c'est tombé sur Leipzig l'année dernière. Ça tombe sur Francfort cette année, qui était chapeau 2 avant. Et en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est un peu les incohérences de ce tirage au sort.
Bien sûr.
C'est-à-dire que l'année dernière, j'en ai parlé avec Nadjim, notre producteur, Brest tombe sur les deux clubs autrichiens. Mmh. Comment tu peux tomber, mathématiquement, en probabilité, sur les deux clubs autrichiens ? Je ne sais plus si c'est la première ou troisième journée ou deuxième journée, je ne sais plus. Là, c'est les clubs, tu peux tomber d'un seul coup sur les deux clubs néerlandais, etc. Enfin, il y a quand même une variété, sauf à penser que les... Encore une fois, on avait parlé pour les droits télé, pas pour les droits télé, pour les retransmissions des matchs, que le fait de ne plus que les contraintes en fait liées au tirage au sort font qu'en fait on se retrouve avec un tirage au sort qui est orienté et trop orienté.
Pourquoi ? Parce qu'il y a 6 clubs anglais, il y a 6 clubs espagnols qui ne peuvent pas s'affronter. Donc forcément, tu as un tirage au sort très déséquilibré.
Et moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est génial pour Francfort de jouer ces 8 rencontres. Le problème, c'est faut pas tirer les mêmes conclusions que dire ils sont pas qualifiés dans le top 24 à la fin de la saison. Donc moi, je voulais savoir si dans vos championnats, vous avez un peu aussi des gens qui critiquent ce tirage au sort qui est quand même un peu spécial, parce que on va dire c'est comme ça, ça fait 2 années qu'un club allemand qui n'aurait jamais dû avoir ce genre de tirage tombe là-dessus. Si chaque année ça se reproduit dans le même pays, c'est pas un complot contre le football allemand, c'est qu'il y a un problème dans le tirage.
Tout à fait.
C'est ça que moi qui me perturbe.
Est-ce qu'on réagit chez vous justement par rapport à ce tirage ? Tiens, Daniel, chez toi qui n'a que 4 représentants, entre guillemets 4, hein, en Ligue des Champions.
Ben ça suffit, c'est pas mal. Non, mais non, il n'y a pas trop ces discours-là. On parle plutôt de justement du fait qu'on ne joue pas la même équipe deux fois. Il y a un déséquilibre entre les équipes que tu joues à la maison et celles que tu dois affronter à l'extérieur, que ça peut être... assez dur quand même, ça fait toute la différence du monde aller à Liverpool comme elle doit faire par exemple pas l'Inter parce qu'il a la maison, ou plutôt aller à le jouer à la maison, ou aller à Londres jouer contre Chelsea ou les avoir à la maison. La Juventus par exemple, elle doit aller à Madrid contre le Real, et c'est différent affronter le Real à Madrid ou par exemple Arsenal chez eux. Après, moi, il faut dire, les matchs ils sont sympas. Je comprends rien au classement. Je pense que ça sert pas à grand chose parce que la plupart des clubs, l'année dernière, Paris et Manchester City, si je me trompe pas, ils sont passés même avec très peu de points, avec très peu de victoires. Donc voilà, ça sert pas à grand chose. Mais les matchs, ils sont jolis.
Ouais, 24e cette année, c'était Bruges avec 11 points. C'était la ligne de flottaison hein, pour se qualifier pour la suite de la compétition, en l'occurrence pour les barrages de la Ligue des Champions. Mais c'est sûr que d'avoir 6 Anglais, forcément, tu fais des victimes quand tu n'es pas dans le championnat d'Angleterre. C'est la prime.
Un peu le truc, ouais.
C'est la prime au championnat fort, justement, qui évite l'écueil d'une confrontation. Et 5 Espagnols. Donc déjà, tu as 36 équipes au départ, tu as 11 Anglais et Espagnols, ce qui favorise pas les... autres présumés petits championnats. T'as parlé du championnat autrichien par exemple, championnat de France aussi, qui forcément doivent se farcir une liste de courses beaucoup plus salée, quoi. Et quelle est la solution? Bon, je sais pas s'il y en a une.
Il faut sécuriser les investissements.
Peut-être.
C'est du sport.
Tu veux préciser, hein? Vas-y, Polo. Hein.
Non, mais au bout d'un moment, l'arnaque, faut arrêter. Quoi. Ouais. Tout est fait pour que les gros clubs soient là. Déjà, le fait qu'on soit à 24 et pas à 16 est plus puissant, on le sait très bien. Moi, je trouve cette nouvelle formule plus intéressante, mais encore une fois, faut changer la façon d'analyser les rencontres. Je suis assez d'accord avec Daniele. On a des rencontres qu'on n'avait pas forcément avant, donc ça a une diversification, une diversité des équipes qui est intéressante. Maintenant, voilà, enfin, on sait très bien comment va fonctionner le football dans quelques années, et là, on est dans une période transitoire.
Transitoire. On aura quand même le droit le 21 octobre, hein, Almaty Paphos. Hein.
Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que on trouve le contre-exemple qui fait que c'est ça qui est extraordinaire.
Oui, mais quelque part, qui sauve un peu les discours de Seferine et autres. Mais vous voyez bien, regardez, on a des petits qui s'affrontent aussi, qui ont la chance de prendre 3 points. On va te répondre aussi.
Je précise que c'est la grande spécificité du modèle libéral. On sort Zidane par rapport à sa condition, etc. Et on dit, regardez, Zidane y arrive. Sauf qu'il y a 99,99% qui n'y arrive pas.
Tout à fait.
Donc ça, mais c'est pas grave.
La fausse méritocratie via le football.
Exactement.
Mais tu parlais de Kairat Almaty. Par exemple, le Real va jouer là-bas. Dans l'ancienne formule, ça veut dire qu'il aurait eu aussi un retour au Bernabeu qui, là, aurait été quand même plutôt inintéressant. Là, mine de rien, t'as des matchs variés, tu joues beaucoup d'équipes. Moi, ça me paraît impensable aujourd'hui d'imaginer regarder le tirage au sort de mon équipe et me dire bon bah en fait je vais jouer que 3 équipes et donc t'as une chance sur 2 d'avoir quasiment aucun match intéressant sur ce point là c'est quand même un succès je trouve le nouveau
format.
Oui,
mais il peut y avoir une meilleure répartition des clubs,
ça, bien sûr,
par pays, tu vois, une autre représentativité des nations en l'occurrence, quoi.
Bon, et l'année dernière, en termes d'équité c'est différent.
Daniele,
l'année dernière, City a gagné que 3 matchs dans les premières 8.
Malgré ça, mais à l'arrivée, on a trouvé toujours un peu les mêmes. Daniele, la finalité reste la même. Ils sont toujours les plus puissants dans le dernier carré ou dans le dernier grand 8 de la Ligue des Champions.
Ah oui.
Bon, le Barça qui va lancer également sa saison Ligue des Champions face à Newcastle, ce sera jeudi soir. D'abord, tiens, les tours par la Ligue 2, Xavier Grimaud, la 50e entre Guingamp et Montpellier. Où en est-on?
Oui, c'est reparti, 1-0 donc pour Guingamp, le buteur Donatien Gomis à la 28e, les Guingampais qui sont logiquement devant, Montpellier qui déçoit, qui sont repartis avec un peu plus d'enthousiasme, les Montpelliérains. Ça joue déjà plus haut, on le voit avec un pressing là immédiatement sur le gardien dès les remises en jeu. Ils doivent faire mieux, l'équipe de Zoumana Camara, parce qu'ils sont mal classés dans cette Ligue 2. 1-0 pour les Bretons de Sylvain Ripoll, la 51e.
Et si Pedri était plus important que Yamal au FC Barcelone? Alors Yamal n'était pas là ce week-end, victoire 6-0 du Barça face à un pauvre Valence. Alors oui, il y a les doublés de Lewandowski, de Rafinha, de Fermín López, mais c'est encore Pedri, hein, comme il l'a fait en sélection, on en a parlé ici même, et notamment je vous invite à écouter le dernier épisode de l'After Espagne consacré à Pedri, son histoire de Tenerife à la Catalogne. Pedri a encore ébloui tout le monde, mon cher Edgar.
Oui, et pourtant, si tu regardes le résumé sur une application qui te montre que les statistiques, qui note les joueurs, ça va pas être le joueur qui ressort. Il a pas de but, il a pas de passe décisive, mais c'est quand même le joueur qui décide de tout, qui décide quand il faut accélérer, quand il faut ralentir le jeu, qui décide quand il faut partir sur les côtés ou quand il faut centrer directement sur Lewandowski. C'est le joueur qui vient te gratter des ballons, qui vient bien les exploiter aussi, parce que c'est une chose d'être bien placé et de servir son équipe défensivement, mais c'est encore autre chose de pouvoir ensuite bien la lancer une fois que l'équipe collectivement a pu récupérer les ballons. Donc je pense que Pedri est fondamental sur ça et on le sent depuis le début de la saison dernière. La question qui est le plus important entre Lamine Yamal et Pedri, je pense que Pedri, pour gagner des matchs tous les week-ends, est plus important que Lamine Yamal. Par contre, c'est sûr que dans un grand choc de Ligue des Champions, celui qui peut te faire la différence à n'importe quel moment, c'est plutôt Lamine Yamal. Mais celui qui te fait gagner le championnat, pour moi, c'est davantage Pedri, parce que je le dis depuis un an, pour moi la plus grande force de cette équipe du FC Barcelone, c'est sa capacité à s'adapter, notamment offensivement. C'est-à-dire que c'est une équipe qui peut se débrouiller contre toi si t'as un bloc bas, qui peut se débrouiller contre toi si t'es très très haut sur le terrain, qui arrive à s'adapter en fait. Et ça passe par Pedri, parce que c'est lui qui, avec les autres évidemment, mais d'abord lui, qui arrive à justement avoir la palette assez large pour pouvoir parfois porter le ballon, parfois mettre le ballon dans la boîte. Et c'est lui, je pense, qui donne cette adaptabilité à Hansi Flick, qui fait du Barça cette équipe-là. Et parfois, ça se montre pas dans les stats. Le débat préféré des supporters du Barça et du Real, c'est qui est meilleur entre Pedri et Bellingham. Et il y en a qui vont vous dire Bellingham a des meilleures stats. Moi, j'ai pas forcément d'avis arrêté sur ça, mais je pense que ce sont deux joueurs qui apportent des choses très très différentes et que Pedri, ce ne sont pas juste les stats qu'il faut regarder, c'est vraiment tout le reste. Et c'est pas non plus les stats de passes réussies ou je ne sais quoi. C'est vraiment l'équilibre qu'il apporte à cette équipe et les options surtout qu'il apporte à cette équipe.
22 ans Pedri, 1m74, hein, qui illumine chaque week-end de Liga en Ligue des Champions. Julien, t'entends ce débat, Bellingham, Pedri, t'es plus amoureux de qui toi, de Bellingham ou de Pedri?
C'est pas le même profil du tout.
Ouais, il y en a qui est un peu plus haut quand même sur le terrain.
Pour moi, c'est un débat forcé entre les deux.
Ouais, non, il y a pas de débat. Mais après, Pedri, c'est un artiste. Bellingham, c'est une machine physique avant tout. Déjà, après, c'est un mec super intelligent, qui est super fort, qui a plein de qualités. Mais Pedri, c'est pour moi, en tout cas, si tu veux un joueur qui va diriger ton jeu, le tempo de ton match, c'est Pedri tous les jours. Quoi. Pour moi, il y a pas photo.
Bellingham n'est pas censé le faire, ça, Polo. Il a les capacités de le faire,
ouais,
diriger le jeu.
C'est pas un vrai meneur de jeu. C'est pas un vrai meneur de jeu.
Mais Pedri n'en est pas vraiment un non plus. C'est un joueur un peu plus reculé. C'est de l'interligne, quoi. C'est de l'espace. Bon. Voilà, donc ce sera face à Newcastle, à St James Park, mon cher Julien. Newcastle qui a foiré son début de saison.
Sans la Minamal, donc.
Sans la Minamal, hein. Ouais. Julien qui a foiré son début de saison, Newcastle, hein. Une seule victoire en 4 journées de Première Ligue. Ce week-end, victoire face à Wolverhampton. Comment tu les sens, là, les Magpies, dans cette campagne de Ligue des Champions, justement?
Alors, déjà, pour les plus anciens parmi les auditeurs, c'est la suite de l'aventure de 1997. Rappelez-vous le Newcastle-Barcelone de 97, le triplé de Faustino Asprilla. Ça ne rajeunit pas, hein, Nico.
T'as raison, Polo, bien sûr.
Daniele, pour Edgar, il n'était pas né encore, mais en 97. Mais voilà, c'était beau. Je souhaite un match aussi spectaculaire, ça c'est sûr. Après, ça a été compliqué parce qu'il a fallu digérer le départ d'Isaac, parce que ça s'est décidé très tard en plus. Voltema 2 marre de la tête, alors que ça faisait 2 semaines que je leur disais que non, mais vous savez, faut pas attendre à ce qu'il marre de la tête parce que c'est pas son point fort. Et bim, il marre de la tête. Mais oui, ça se remet en place, ça va se remettre en place difficilement. Ils avaient perdu Gordon, qui était expulsé en championnat contre Liverpool. Là, il sera là. On va voir, mais c'est une équipe physiquement, c'est l'une des équipes les plus fortes physiquement. Et à mon avis, la seule façon qu'ils ont pour gagner contre Barcelone, c'est de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact physique, comme on l'a vu contre Liverpool par exemple en championnat. Et c'est là où ils sont très forts. Joe Linton, Bruno Guimaraes et Tonali au milieu de terrain, c'est très fort. Et c'est seulement comme ça, à mon avis, qu'ils pourront causer des problèmes à ce Barça-là.
Il y avait déjà eu aussi un Newcastle-Barça en 2002-2003. Edgar devait avoir 1 an ou à peine, ou 2 ans peut-être. Qualif, non, c'était en phase de groupe. 3-1 pour le Barça, 3-2 au retour. Début notamment de Kluivert et Thiago Motta. Ça ne nous rajeunit pas, bien sûr.
D'ailleurs, mais on a le Juve.
Moi, ça me rajeunit, Nico.
Mais toi, ça te rajeunit.
97,
toi.
Hein.
Le quoi, tu dis?
Le Juve Dortmund, c'est aussi pareil.
97, c'est la.
97 aussi, de Lars Ricken et tout ça.
Mathias Zemmer.
Zemmer, exactement. Ouais. Il y a Andreas Müller dont on a parlé tout à l'heure, etc. Il y avait du beau monde.
Ravanelli aussi.
Ravanelli.
Il y avait du beau monde.
C'était une Juve bien saine, hein, bien préparée, hein, physiquement, Daniele, à l'époque. Hein.
Elle était archi favorite, en fait.
Je ne comprends pas votre.
On va s'arrêter là, Daniele. Merci, Daniele Manoussia, Edgar Grolot, je suis Laurence, Polo Breitner. L'after arrive, bien sûr. La suite de ce match de Ligue 2 entre Guingamp et Montpellier. Guingamp mène 1-0. On se retrouve la semaine prochaine, les Drôles de Dames, comme tous les lundis soirs, de 20h à 22h. Tous les podcasts After, Espagne, Allemagne, Italie, Angleterre, sont en ligne. Je vous le disais, pour l'Espagne, c'est Pedri qui est au programme, son portrait, son histoire, son aventure et sa domination avec le Barça. Bonne soirée à tous, l'After continue sur RMC.
Génération After.